parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 22h, c'est l'heure de Confidence. Bienvenue à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en ce lundi 17, c'est ça ? 17 janvier déjà. Ben oui. Eh bien, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Voilà, on entame la semaine ensemble. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir, Giovanni.
Comment va, Vanessa ?
Ben, toujours bien. Toujours. Et toi ?
Ben, écoute, le week-end fut bon, reposant.
Reposant, voilà. C'est ce qu'il faut en cette période
Quand
de
il
l'année.
Fait froid comme ça, on aime bien être devant la télé, tranquillement.
Sous sa couette, bien douillette.
Le bon café chaud, le chocolat chaud.
Exactement. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment à faire. Voilà.
On regarde le mauvais temps, on se dit qu'on est bien là devant le chauffage.
C'est ça. Et que le monde moderne a du bon par certains côtés, n'est-ce pas ? Ben oui, on a du chauffage. Fut un temps où les gens n'avaient pas de chauffage, faut pas l'oublier.
Eh oui.
Eh oui, donc vous imaginez. Donc on va pas se plaindre.
Ou hein. Avant, les gens devaient même aller chercher, bon, pour ceux qui avaient du charbon, pour le ceux charbon. Qui avaient le... Eh oui, le chauffage, c'était au charbon.
Et avec le charbon et bois.
Au charbon et au bois, exactement. Oui. Dans la cheminée.
Les chaudières. Ouais, ouais, voilà, exactement.
Et moi, je voyais ça à l'époque, dans, dans la maison des amis de mes parents. Ouais, on voyait encore la cheminée au bois aller.
Oh, c'est encore ça, son charme. Cheminée au bois, une maison avec une cheminée.
Et dans ma famille, voilà, alors, on a encore beaucoup de maisons des mines.
Ah oui, c'est
et
vrai.
Et des maisons de mines qui ont encore des cheminées au charbon.
Oui, parce que c'est le nord.
Et ma tante charbon. Qui va encore chercher le charbon qui fait aller le...
Incroyable.
Qui fait aller le... Ouais.
C'est fou, hein.
La cheminée au charbon.
Ben écoute, estimons-nous heureux d'avoir ce qu'on appelle du chauffage central, hein, du chauffage dans la maison, où la maison est chauffée avec des vitres, des doubles vitrages, etc., etc. Voilà, voilà. Donc nous sommes des princes et des rois, finalement. Hein. Quoi demander de plus ? Hein, on a un peu de chauffage, on est bien. 01 53 48 3000, bienvenue à vous chers amis. Eh bien le ton est donné, vous voyez, on va vous donner un petit peu de chaleur ce soir, d'accord ? On va vous dorloter, hein, chers amis, vous en avez besoin. Hein, on a tous besoin d'être un petit peu chouchoutés. Ben on est là pour ça, d'accord ? Allez, venez vider votre cœur. Videz votre cœur parce que parfois quand le cœur est trop chargé, trop plein, on trouve pas d'oreille hein, pour le vider, hein, pour écouter. Parce que les gens aiment s'entendre parler, mais chacun veut raconter son histoire, mais écouter l'autre, on ne sait plus trop faire. Ben écoutez ici, du côté de Beurre FM, dans Confidence, on fait de la résistance là-dessus. On sait faire, on sait vous écouter, on sait vous conseiller, on sait vous chouchouter, vous dorloter, hein. Et puis on vous cajole chaque soir, et puis on vous borde, hein, avant de vous endormir. D'accord ? Bon nombre se sont endormis à l'antenne, je peux vous l'assurer. Hein. Il y en a qui ont les oreilles qui sifflent là. Et oui, parce que quand on les appelait, quand on appelait leur prénom pour les mettre à l'antenne, eh bien on entendait un ronflement. Bah oui, c'est arrivé. Je donnerai pas de prénom. Non, non. Allez, on y va. 01 53 48 3000. Eh bien, tout d'abord, une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjoubikoum, Chouin Chalin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà. Donc, venez parler de ce que vous voulez. Hein, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais recalé au standard. Et vous ne serez jamais hors sujet. Donc, vraiment, moi, je propose hein, des sujets, mais vous pouvez parler d'autre chose. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je suis hors sujet. Non, 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 pas d'inquiétude. Moi, ce soir, j'avais envie de parler de d'un sujet, ma foi, pas joyeux, hein, bien entendu, pas joyeux, mais un sujet qui est d'actualité, qui... Enfin, moi qui me cingle les oreilles, je pense que bon nombre d'entre nous vivons la même chose. Bien, en ce moment, en cette période électorale, comme chaque période de campagne présidentielle, eh bien, les stigmatisations, tout ce que vous voulez, on tape toujours sur les plus faibles. Hein. Ceux qui ont des problèmes, ils ont la tête sous l'eau, on tend pas la main pour les rattraper, on n'essaye pas de trouver les solutions. hein, parce que c'est ça, la priorité, c'est de trouver les solutions pour une société apaisée, sereine, voilà. Dans un monde normal, dans une société entre guillemets normale, ce serait vraiment ce serait le bon réflexe. Eh bien, l'idée serait de chercher les solutions ensemble pour s'entraider et puis pour mettre un petit peu de sérénité, hein, dans l'ambiance. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas parce que chacun, eh bien, veut le fauteuil, quoi. Voilà. Donc chacun y va avec sa manière de faire, et c'est pas toujours les bonnes méthodes, hein. Je pense que nous sommes très nombreux à l'avoir remarqué. Ben oui, et je pense qu'un enfant de 5 ans peut le remarquer, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai envie de parler de la pauvreté et de la prison, voyez. Donc je mets les deux ensemble, parce que pauvreté et prison, eh bien, je pense, vont ensemble, parce que très peu de personnes se retrouvent en prison alors qu'elles vivent à l'aise. Des jeunes, par exemple, qui auraient fait les grandes écoles, qui auraient reçu une éducation vraiment parfaite, qui auraient connu l'excellence au point de vue des études, etc., et qui vivent dans le confort total, qui font, oui, comme je disais, de bonnes études, bien entourés, bien encadrés, etc., se retrouver en prison, c'est très rare, ou alors accidentel, ou je ne sais quoi. Alors, donc, on parle souvent des jeunes de quartier, on assimile les jeunes de quartier. Alors, quand on parle de prison, alors souvent on dit, oui, alors donc, les prisons, la population carcérale, eh bien, elle est constituée de jeunes de quartier, des jeunes de banlieue, etc. Ouais, mais on oublie de dire que dans les ghettos, eh bien, on peut pas faire des élites, hein, on peut pas faire souvent. Il y en a qui arrivent, hein, bon, il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Alors, ce qui fait qu'on oublie de le dire, que dans ces endroits, je veux dire, ils vivent souvent. Ils sont très nombreux dans les appartements. Il y a beaucoup de bruit. Il y a très peu d'espace. Il reste quoi? La rue en bas des immeubles. Eh bien, ils se rencontrent, des cités. Les jeunes se rencontrent parce que bon, la nature a horreur du vide, et ils ont besoin de combler ce vide, puisqu'ils ne peuvent pas le combler comme d'autres qui ont plus de chance, parce que bien né, voyez, ça c'est aussi la naissance, hein. Bien né, donc avec des activités disons que ce soit culturel, ou qui voyagent, ou qui font des bonnes études, etc. Donc ils n'ont pas cette chance là donc ils se retrouvent entre eux, et voilà. Le problème, il est là. Donc, bien évidemment, c'est pas toujours les meilleures idées qui sortent, hein, de tout ça. Donc, parmi eux, bon, il y en a beaucoup, il y en a qui s'en sortent, tant mieux. Mais bon nombre, hélas, parce qu'on n'est pas tous faits de taillés dans le même tissu, comme on dit. Eh bien, il y en a qui sont plus faibles, plus fragiles, plus influençables, etc., etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, et que j'avais envie de découdre un petit peu tout ça, toute cette jeunesse qu'on pointe du doigt, les prisons toujours les mêmes. Alors, en ce moment, c'est ce qu'on entend, hein, dans cette campagne. Oui, les prisons sont pleines de jeunes issus de l'immigration, etc. Parce que on peut, c'est parmi ces jeunes, imaginez, il y a des jeunes qui ne sont pas issus de l'immigration, mais qui vivent dans ces lieux que j'appellerais des ghettos, et qui se retrouvent aussi vivant le même sort que ces jeunes, alors qu'ils ne sont pas du tout issus de l'immigration. Non, c'est, voilà, ils vivent dans les mêmes conditions, et la même misère, j'ai envie de dire, la pauvreté, le manque de tout. Et quand ils cherchent, alors, donc les études, c'est pas facile. Les parents n'ont pas toujours la possibilité de leur faire prendre des cours particuliers, ou de leur donner eux-mêmes des cours, etc. Parce que eux-mêmes sont fatigués, ils sont usés, ils travaillent. Enfin, c'est très compliqué, hein. Voilà, il faut creuser. Et que, ces jeunes, parfois ils s'en sortent, et tant mieux, il y en a beaucoup qui s'en sortent, Dieu merci. Eh bien, ces jeunes, j'ai envie de dire que ils cherchent du travail, donc sur leur CV, ils ont pas la bonne adresse. Ils ont pas la bonne adresse, la ville qu'il faut. Première stigmatisation, première barrière. Ils ont pas le bon prénom, parce qu'il y en a certains qui disent que les prénoms aujourd'hui, ça prend une ampleur, mais vraiment démesurée, puisque aujourd'hui, on pointe du doigt non seulement les lieux de résidence, mais en plus les prénoms. Vous vous rendez compte? Donc les mauvais prénoms, parce qu'aujourd'hui, il y a des mauvais prénoms. Alors le mauvais prénom, le mauvais nom, la mauvaise adresse, la mauvaise ville, tout quoi. Donc pas de travail, peu de chance pour en trouver en tout cas. Quoi d'autre? Alors, quand on a la chance d'avoir un travail pour ces jeunes, eh bien, un travail qui puisse un petit peu les faire un peu vivoter, eh bien, ils ont très peu de chance, encore une fois, de trouver un logement. Vous imaginez, ils déposent un dossier dans une agence. Alors, voilà, encore une fois, le nom, tout ça, les origines qui remontent à la surface, et propriétaires qui sont pas très... Et donc c'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué pour ces jeunes. Donc j'ai envie de mettre tout ça en avant. Mauvaise adresse, mauvais prénom, entre guillemets bien sûr, le prénom, l'adresse, le nom, la ville, lieu de naissance, tout ça. Allez trouver du travail, allez trouver un logement avec tout ça. Alors donc, il y en a qui disent, oui mais enfin quand on veut, on peut. Ben ouais, ils veulent aussi, Ces jeunes veulent, comme tous les jeunes. Voilà, ils voudraient avoir du travail, ils voudraient avoir un salaire, ils voudraient avoir un appartement normal, quoi, vivre normalement leur vie, fonder un foyer, etc. Mais voilà, l'avenir, on leur vend un avenir sombre. À longueur de temps, à la télévision, on leur dit, t'as un mauvais prénom, ton prénom, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Etc. Stigmatisation, la religion en plus. Voilà, donc on assimile un prénom à une religion, alors que bon, ça ne veut absolument rien dire. On peut s'appeler Jean-Philippe et être bouddhiste, être musulman, être juif, être tout ou athée. On peut s'appeler Mohamed et être athée aussi ou être bouddhiste. J'en connais. Donc voilà, non, tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Kamel, tu es alors tout de suite c'est musulman, etc. Et puis combien même une religion, oui. Je veux dire, tout le monde a sa religion ou pas, c'est pas le plus important, voilà. Donc tout ça, vous rendez compte, le prénom, le nom, le lieu d'habitation, la religion. Ces jeunes, pour trouver du boulot, faut vouloir, franchement. Donc c'est très compliqué, voilà. Donc il suffit qu'à un moment donné, ils aient raté le coche, parce que les parents n'étaient pas là au bon moment, parce qu'ils étaient fatigués, usés, ou alors ces jeunes sont issus de familles recomposées ou éclatées. C'est très, 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 très compliqué pour eux. Oui, en prison, il y a des jeunes comme ça. Oui, bien évidemment. Mais voilà, les raisons, elles sont aussi un peu là. J'essaie pas de justifier en disant, ils n'y sont pour rien, etc., de leur trouver des raisons. Non! Non, ils payent pour ce qu'ils ont fait, c'est clair. Mais il faut aussi chercher pourquoi. Parce que si on cherche pas les raisons, voilà, de ces problèmes, si on n'essaie pas de chercher les raisons, on trouvera jamais les solutions. Voilà. Et il y en a, je peux vous assurer que ça les arrangerait pas qu'il y ait des solutions et qu'on se penche sur ces questions. Non, au grand jamais. Ben oui. D'ailleurs. Est-ce que vous entendez quelque part ce genre de propos que je tiens, moi, ce soir? Ben non, vous entendrez toujours le contraire. Voyez, la stigmatisation. Musulmans, voilà, les banlieues, les quartiers, prisons, délinquance, drogue, c'est tout ce que vous entendrez. Mais vous n'entendrez pas, mais d'où vient le problème? Ben oui, il faut remonter, vraiment. À la source du problème pour trouver les solutions. Parce que c'est les solutions qu'on veut. Qu'on nous dise oui à la délinquance, oui à la drogue. Oui, on le sait. Et alors? Bon, quand t'as dit ça, t'as rien dit, quoi. Mais, et après? Il faut trouver les solutions. Ils sont français, Ils sont français. Ils n'ont pas de pays de rechange. Ils sont là. Ils sont là. Ils seront là pour toujours. Donc il faut que, comme tous les Français, voilà, aider les maillons faibles, ceux qui n'ont pas eu de chance au départ de leur vie, les aider, trouver des solutions ensemble, voilà, au lieu de stigmatiser à tout rompre. 01 53 48 3000, on marque une courte pause et on revient avec vos annonces, j'allais dire. Non, les annonces, c'est le matin. Allez, on revient avec Confidence, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Alors, voilà, ce soir, j'ai intitulé cette émission « Pauvreté et prison ». Et d'ailleurs, selon un rapport publié par le Secours catholique et Emmaüs France, les personnes incarcérées sont en général plus pauvres que le reste de la population et elles se précarisent encore en prison, ce qui complique leur réinsertion. Voilà. Alors, j'ai aussi noté ceci. Au dernier barreau de l'échelle sociale de la prison. Alors attendez, voilà, là. Parce qu'il y a des rapports quand même qui sont faits. Je n'invente absolument rien. Il y a des enquêtes également. Alors, les personnes pauvres sont massivement surreprésentées en détention. La prison accroît la pauvreté et agit comme un accélérateur de précarisation et les conditions de sortie de prison exposent les personnes les plus vulnérables à une précarité économique et sociale encore plus importante, ce qui favorise, hélas, la récidive. Voici ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cette enquête, chers amis. De Emmaüs, bien connu, hein, Emmaüs, qui a été fondé par l'abbé Pierre, et le Secours catholique, 01 53 48 3000. Alors, j'attends votre témoignage et puis qu'on puisse débattre autour de ce sujet, puisque d'autres ne veulent pas débattre et ne veulent pas aller au cœur du problème, hein, puisque on évite, on contourne, etc., on accuse, on enfonce le clou, on met de l'huile sur le feu. Voilà, parce que les élections, c'est tellement plus important que les vies humaines. Voilà. Alors donc, moi, ce soir, j'avais envie plutôt d'aborder le sujet autrement, hein, différemment, pour ensemble, peut-être, je croise les doigts, trouver quelques solutions à travers des exemples qui nous seront peut-être donnés ce soir. Brahim nous appelle du 95. Bonsoir, Brahim.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir, bienvenue Brahim.
Je t'écoute souvent, tu te souviens?
Je sais, oui.
Quand un moustique, il est rentré.
D'accord, ah peut-être, je sais plus. Un moustique était rentré où? Chez toi, chez moi?
Non, chez toi.
Ah, ici dans les studios? Ah oui, peut-être. Oui. Ah, ça devait être en été alors.
Oui, alors je t'écoute souvent et j'inspecte ta sagesse.
C'est gentil, merci.
Qui m'appelle? J'ai de graves soucis en ce moment.
Oui, de quel ordre?
Je vais te virer de mon logement.
D'accord. Oh, bah dis donc, alors ça, vraiment.
Oui.
Ouais.
Mon appartement principal a pris feu.
Ah, mince.
On m'accuse d'avoir mis le feu, alors que...
Pourquoi t'as mis le feu?
Franchement, mais j'ai pas mis le feu.
Je te taquine.
Un mégot qui est tombé par terre.
Un mégot qui est tombé par terre?
Qui est tombé sur un tas de vêtements et ensuite qui a brûlé un lit.
Indirectement, c'est pas toi qui as mis. C'est pas toi. C'était pas. On va dire, c'était pas voulu. C'était pas délibéré. Mais c'est toi qui as mis le feu.
Non, attends.
Brahim, c'est toi qui as mis le feu.
Non.
Bah si, c'est le mégot.
Enfin, si, c'est moi.
Le mégot, la cigarette, elle appartenait à qui? Qui c'est qui fumait cette cigarette?
Mais à moi, mais je suis handicapé du bras gauche.
Ah ben, fume pas. Attends, tu me dis je suis handicapé du bras gauche. Fume pas, c'est mieux.
Ben, oui,
déjà, t'as un souci de santé.
Je sens pas mes doigts.
Ben, tu sens pas tes doigts, mais tu sens tu sens le mégot quand il passe dans tes poumons. Et c'est très mauvais, ça.
Ben, oui.
Ben, alors, arrête de fumer, regarde. T'as mis le feu chez toi.
Ma vie, elle est foutue.
Elle est pas foutue, ta vie. Tu sais ce que tu fais? Déjà, il faut que tu fasses, d'abord, tu arrêtes de fumer et que tu te soignes. Tu souffres de quoi exactement, hormis ton bras? Brahim? J'ai plus Brahim. On n'a plus Brahim. Eh bien, on va accueillir Yacine qui nous appelle de Toulouse. Allez, 01 53 48 3000. Le sujet est très intéressant. Et quand je dis intéressant, dans le sens vraiment très sérieux, hein. et j'ai envie de vous recevoir nombreux et nombreux, et vous aussi qui avez connu la prison, venez nous en parler, venez nous dire ce qui vous a mené jusque là, comment vous en êtes sortis, je l'espère, Inch'Allah, et si c'est pas le cas, venez en parler aussi, venez donner apporter votre témoignage qui va servir à d'autres, c'est très important, puisque ce soir, eh bien, j'ai décidé de mettre ce sujet en avant, puisque c'est un sujet qui n'est abordé apparemment nulle part, n'est-ce pas? Bon, Yacine de Toulouse, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue Yacine.
Ah, bonsoir, ben moi je vous écoute et j'approuve ce que vous dites parce que moi aussi j'étais en prison.
D'accord. Et donc
et j'ai mal vécu ça.
Oui, j'imagine. C'était il y a longtemps, il y a combien de temps?
Il y a un mois.
Tu es sorti il y a un mois?
Ouais.
Tu es resté combien de temps?
Allez. Je suis resté 11 mois. J'ai fait 11 mois.
11 mois, d'accord.
Ouais.
Ouais. C'est compliqué, bien sûr.
C'est très, 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 très.
C'est mal vécu, oui. Mais bon, il s'est passé quelque chose avant pour que tu sois entré en prison?
Oui, j'ai fait pas mal de bêtises.
Voilà, c'est ça. Hein.
Ouais.
Ouais. Et quelle était ta vie avant d'entrer en... Quel âge tu as aujourd'hui?
36 ans, c'est mon anniversaire.
Tu es rentré. Et tu es retourné souvent en prison ou c'était une première fois?
Non, c'était juste deux fois.
Deux fois, d'accord.
Ouais.
Et donc, quelle a été ta vie avant ces séjours en prison?
Ma vie, elle était bien, elle était heureuse.
Tu vivais comment? Tu vivais avec tes parents, en famille?
Voilà. Et un beau jour, j'ai pris un sens interdit.
Un sens interdit? Ah oui, ça, non.
C'est, voilà. C'est comme les voitures quand ils prennent des sens interdits.
Oui. Ah oui, c'est pas une voiture, c'est une métaphore. Un sens interdit, voilà. Tu as fait des bêtises. Bon.
Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu vivais avec tes parents? Quel a été... Comment tu vivais chez tes parents? Comment ça se passait?
Bien. Bien.
Vous êtes combien d'enfants?
On était 6.
6 enfants. Vous aviez un grand logement?
Ouais, oui.
D'accord. Et vous étiez combien dans une pièce, dans une chambre pour dormir?
On était. Chacun avait une chambre.
D'accord. Donc, tu avais ta chambre. C'était voilà. Dans des quartiers? C'était en banlieue? C'était comment?
Non, c'était un petit village.
Dans un petit village, d'accord. Et comment tu as basculé? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Ta scolarité, comment elle s'est déroulée?
Ma scolarité, c'était... Je suis parti à l'école. J'ai fait la CM1, CM2, et voilà.
T'as pas été loin, quoi.
Voilà, j'ai pas été loin.
D'accord. Et pourquoi tu t'es arrêté aussi... aussi promptement, aussi rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que j'ai un problème de santé.
Ah bon?
Oui.
D'accord. Et donc, quand tu faisais tes bêtises, comme tu dis, tes parents, comment ça se passait?
Ben, ils me grondaient. Oui. À chaque fois, ils me grondaient.
Tu es le seul dans la famille?
Oui.
Avoir fait des bêtises ou les autres, oui. Non, ils n'ont pas suivi?
Non.
D'accord, très bien. Et donc, et c'est oui. Tu as comment? Je voudrais savoir si tu as été influencé ou quelque chose comme ça. Enfin, parce que ça arrive pas comme ça. Un beau matin, tu te réveilles, tu te dis tiens, je vais faire des bêtises.
Non, pas influencé, mais je sais pas. C'est.
Tu avais des mauvaises fréquentations?
Ouais, voilà.
Mmh.
Ouais.
Ouais. Comme quoi, les mauvaises fréquentations, voilà où ça mène. Hein.
Ça paye pas, ouais.
Ben oui, c'est bien de le dire.
Hein. Ouais.
D'accord. Donc, tu as fait le premier séjour, combien tu avais pris?
La première peine, j'ai fait 8 mois.
8 mois?
Ouais.
Et la deuxième, 11 mois.
Et la deuxième, ça fait 11
bon,
mois.
J'espère que ça va s'arrêter là.
Hein? Non, j'espère jamais 203, comme on dit.
Non, faut pas jamais dire ça, si tu commences comme ça. Mais non. Quand on veut, il n'y a ni 2-3, ni 2-4, ni. Quand on veut, il y a 0.
Dans la vie, quand on veut, on peut.
Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu travailles?
Dans la vie, je repris ma vie, tout d'accord. Va bien.
Tu travailles?
Alhamdoulilah, ouais.
Tu fais quoi?
Dans l'espace vert.
C'est bien, ça? Ouais. C'est bien.
J'adore mieux que m'occuper des plans.
Ah ben voilà. Et tu as laissé tomber toutes ces mauvaises personnes.
Voilà.
Très bien.
J'ai pris du recul.
Bon, bravo, Yacine. Ouais. Et tu maintenant, est-ce que tu es en couple ou
Non, ça devient compliqué là.
Ça devient compliqué, pourquoi?
Ouais, parce que j'ai une personne, elle est loin, elle habite loin, et voilà.
Et elle peut pas te suivre, elle peut pas te rejoindre. Elle habite où?
Non, à Mulhouse.
Bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est la France, hein. Oui, Mulhouse, elle prend le train et elle a pas envie de venir vivre à tes côtés.
Elle a ses enfants, elle a toute sa famille là-bas.
Elle est divorcée.
Ouais.
D'accord. Ça fait un moment que vous fréquentez?
Oui, un petit moment, quoi.
Donc c'est du sûr, quoi. C'est du sérieux.
Ah oui, c'est fou.
Et toi, tu as pas envie de la rejoindre là-bas et de trouver du travail là où elle est?
Vanessa, tout quitter comme ça?
Elle, tout quitter, c'est difficile puisqu'elle a une famille, elle a des enfants. Mais toi, tu quittes. Qu'est-ce que tu quittes? Tu quittes rien? Oui, bon, les amis, hein, on a vu ce que ça donnait. Donc, tu es célibataire. Si vous vous entendez, si ça se passe bien, tu cherches dans un premier temps. D'abord, il faut y aller par étapes. Tu cherches d'abord du travail. Une fois que le travail est là, pourquoi ne pas aller faire un essai? Si ça se passe bien, tu es plus léger, t'as pas d'enfant, toi.
Pourquoi pas, ouais. Mais...
Ben oui, non.
J'ai un truc à vous dire, même.
Oui.
Les femmes, ils ont tout le temps raison. Même quand ils ont tort, ils ont tout le temps raison.
Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je sais pas. C'est vrai, en fait.
Mais avec elle, ça se passe bien?
Oui.
Ben alors? Faut pas dire ça. Faut pas dire ça.
Je sais pas, j'ai un blocage.
Bon, c'est normal parce que tu as une vie un peu compliquée, hein. Ouais. Tu vis dans le passé, mais c'est pas bon. Il faut vivre le présent. Et je pense que peut-être, hein, je sais pas ce que tu as connu tu as eu des addictions. Tu as touché à la drogue, à l'alcool.
Ouais.
Ouais. Tu touches encore à la drogue?
Non.
C'est vrai?
Ah, c'est fini, ça.
Et l'alcool?
Ouais, j'ai tourné la page.
Bon, c'est bien. Déjà, c'est bien. Hein? Là, on avance. Est-ce que tu as pensé à aller voir peut-être un psychologue? Ça peut aider.
J'en ai fréquenté quelques-uns.
Oui, mais il faut continuer. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pas quelques-uns. Il faut en trouver un bon, hein, avec lequel ça passe bien. Et puis aller jusqu'au bout de ta thérapie, hein, des soins. Mmh. Ça fait du bien, tu sais. Et puis quand tu dis je vis dans le passé, c'est ça aussi qui t'encombre l'esprit et qui te bloque, parce que tu es figé dans le passé. Et alors tu oublies de vivre le moment présent. Moi, ce que je te propose, c'est de lire, comme je l'ai dit, tu sais, l'autre jour à notre ami Hamid, qui était dans une addiction, l'alcool, il était dedans. Et là, il s'en est sorti depuis quelques jours, Dieu merci. Et je lui ai proposé, oui, vraiment, j'ai insisté, il a écouté, je suis très fière de moi et de lui. Et moi, j'ai envie que tu... Et puis, je lui ai proposé de lire, d'aller sur Internet. Et c'est de la lecture audio, parce que des fois, à lire, on ne peut pas poser son attention quand on a une vie un peu mouvementée. Alors, tu peux écouter le soir et tu verras, la voix, elle est très reposante du narrateur. Ça s'appelle... Le pouvoir du moment présent. Donc l'auteur s'appelle Eckhart, E-C-K-H-A-R-T, plus loin, T-O-2-L-E, Eckhart Tolle.
D'accord.
Hein? Donc le pouvoir du moment présent, eh ben ça fait du bien, parce que tu prends conscience du moment présent, de l'importance du moment présent.
Oui.
Parce qu'il y a des mots clés qui vont te parler et qui vont t'aider à vivre, justement, maintenant, pas dans le passé. Et ça va t'aider, Yacine.
Yacine.
Ah, Yacine, ouais. Tu l'as noté?
Oui.
Eckhart Tolle.
Ouais, je suis en train de le noter.
Voilà. le pouvoir du moment présent. Écoute ça ce soir sur, tu cherches sur YouTube.
Ouais.
Et tu verras, tu vas t'endormir avant la fin parce que ça dure des heures. Et demain, tu reprends et chaque soir, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser. La voix est reposante, les mots sont choisis, sont magnifiques, les messages qui passent sont juste grandioses. Et puis quand tu sais que quand on dort, ben le cerveau il dort pas. Et le cœur non plus.
Il continue à fonctionner.
Ah ben heureusement, parce que sinon, ben ça veut dire que c'est terminé pour cette vie quoi. On n'est plus là. Tu comprends? Ouais. Nous on dort, mais le cœur continue à battre et le cerveau continue à fonctionner. Et il va chercher les informations. Et comme il a pas les, alors tu sais ce qu'il fait? Il travaille les informations. C'est comme ça que ça se passe. Il a de la matière. C'est la matière que toi tu lui donnes de ton éveil quand tu es réveillé. Alors, ce qui fait que si tu as des pensées du passé, tout se mélange et tout, tu fais ce qu'on appelle des cauchemars. Tu comprends? Et le lendemain, tu as des courbatures, tu es fatigué, tu as l'impression de ne pas avoir dormi. Et oui, tu n'as pas dormi.
Oui,
même si tu as dormi physiquement, mais ton cerveau n'a pas dormi. Donc, indirectement, ton inconscient, eh bien, il est fatigué. Donc, il faut le nourrir, le cerveau. Il a besoin de te nourrir. Hein. C'est-à-dire que quand tu dors, il se nourrit de tout ce que tu as pensé. Alors donc, tu vas le nourrir avec ce que je viens de te donner comme référence, cette lecture audio. Eh bien, pendant que tu dors, lui, il se nourrit, il se fait du bien, il te fait du bien. Et tu verras que le lendemain, Inch'Allah, oui, le lendemain, tu te réveilles, tu es bien, tu te sens mieux, tu es apaisé. Et même les événements se transforment, parce que les événements, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui faisons notre destin. Parce que la nature, l'univers, Dieu nous donne tout pour qu'on puisse avoir le pouvoir sur notre vie, ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu comprends?
Oui.
Voilà. Donc tous les jours, on fait notre destin. On dort la nuit, c'est une petite mort. Le lendemain, on se réveille et on remplit la page qui est blanche le matin. On la remplit jusqu'au soir avec nos décisions. Mais il faut prendre les bonnes décisions.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Voilà, et puis la route, il faut prendre la bonne. Ok, Yacine, ouais. Tu fais comme ça?
Oui.
Et tu me donnes des nouvelles, tu me dis ce que ça a donné.
J'aurais une petite blague.
Ah ben vas-y, allez.
Allez, pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé?
Ah ben tu vas nous le dire.
Parce qu'il avait un bon appart.
Elle est bonne. Ah ben oui, bravo Yacine, je t'adore. Je t'embrasse très fort Yacine.
Bisous.
Bisous, bon courage. Tu vas t'en sortir, tu verras. Ok, reviens donner des nouvelles. À bientôt. Au revoir. 01 53 48 3000. Oui, la prison, il faut pas penser que la prison c'est une fin. Voilà. Après il y a plus rien, il y a plus de vie. Non, non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, vous avez trébuché, hein. Moi je parle aux jeunes, vous avez trébuché. Je ne suis pas là pour vous juger, personne ne doit juger qui que ce soit. Il y a une justice, elle est faite pour ça, d'accord? Donc vous avez pris des peines, c'est la justice, c'est selon ce que vous avez fait, ça ne nous regarde pas. Mais moi je suis là pour vous dire que, eh bien, relevez-vous, voilà, qu'il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la peine que vous preniez, dire que ce soit un mois, deux mois, un an, trois ans, dix ans, hélas, s'il y en a qui prennent beaucoup, eh bien, dites-vous une chose, vous êtes à l'intérieur, alors au lieu de vous monter la tête, au lieu de vivre dans le passé, au lieu de rester entre vous, l'entre-soi, c'est mauvais, à vous monter la tête contre la société, contre la France, contre ceci, contre ça, c'est très mauvais. Non, non, il vaut mieux, je vous dis, hein, la prison en France, c'est pas la prison dans d'autres pays. Hein. Donc, vous avez au moins, dans votre malheur, vous avez cette chance-là. Donc, au moins, mettez à bon escient ce séjour, hein, ce temps qui hélas est là. Donc vous avez cette chance de pouvoir avoir des livres. Donc lisez, c'est important. Moi j'ai eu des garçons qui m'ont appelé, qui m'ont dit, un notamment qui m'a dit je t'ai écouté et puis j'ai appliqué, tu avais raison. Il avait pris 4 ans et au bout de 4 ans il a eu son bac en prison. Vous voyez, donc il y en a un autre qui préparait sa maîtrise. Donc on peut faire des choses. On est en France, donc il y a des possibilités. Donc voilà, il y a des bibliothèques, il y a des bouquins. Lisez, apprenez. Ça va vous donner un bon vocabulaire. Vous allez sortir de là avec des bagages, avec des projets, inchallah. Travail, fonder un foyer, avoir un appartement. C'est ça qu'il faut regarder. Faut regarder devant vous, pas dans le passé. Voilà, c'est très important. Puis restez pas entre vous à vous monter la tête, etc. Non, regardez devant vous. Faites la fierté de vos parents. Parce que vos parents, ils ont espéré le meilleur et l'excellence pour vous. Il n'y a aucun parent qui veut que son enfant tourne mal ou le malheur de son enfant. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des parents, malheureusement, ils sont accablés, il y a le travail, il y a plein de choses où ils n'ont pas été loin dans leurs études. Enfin, la vie a été compliquée pour eux, donc c'est très compliqué. Mais aucun parent ne veut vraiment que son enfant tourne mal. Donc faites la fierté de vos parents, ne faites pas que vos parents rasent les murs à cause de vous. Vraiment, qu'ils aient honte, que votre maman elle travaille, qu'elle fasse des ménages ou qu'elle travaille durement pour vous aider à cantiner. C'est très compliqué, vous rendez compte vraiment. Donc non, pensez à vos parents, pensez à votre petite maman, voilà, votre papa, faites voilà sa fierté plutôt que son déshonneur, parce que pour lui c'est un déshonneur. Vous vous rendez compte, lui toute sa vie il a porté l'honneur sur ses épaules et il a toujours voulu que son nom reste vraiment lumineux, et puis du jour au lendemain il se retrouve dans cette situation. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup de mal à vos parents, ça les rend malades vraiment, et vos mamans pleurent des larmes de sang quand elles viennent vous rendre visite, etc., au parloir. Donc, plus jamais ça, les garçons. Vous êtes dedans. Lara Loeb, vous avez trébuché. Bon, ça arrive, c'est la vie, c'est un accident, on va dire. Mais dites-vous plus jamais. Relevez-vous. Vous êtes dedans. Eh bien, profitez de ce temps pour ouvrir des livres, pour apprendre et pour avancer. Préparez votre sortie. Ne préparez pas votre retour. Vous voyez, parce qu'il y en a, ils sortent, récidivent, etc. Non, préparez votre sortie pour ne plus jamais retourner. Vraiment. Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite, les garçons, si vous m'écoutez là ce soir, je souhaite vraiment le meilleur pour vous, parce que vous êtes nos enfants et qu'on a envie vraiment le meilleur pour vous. Et tous ceux qui vous stigmatisent, etc., c'est parce qu'ils connaissent pas votre histoire, ils connaissent pas votre vie. Mais je vous dis, bon, on n'est pas là pour justifier, mais on est là pour dire, vous avez trébuché, mais vous avez le droit aussi de vous rattraper. C'est pas interdit. 01 53 48 3000. Alors, on a Fatima, elle nous appelle de Blida en Algérie. On a Hakim juste après Mohamed du 92. Ne partez pas Hakim et Mohamed. Je vais prendre Fatima, elle nous appelle de Blida. Blida, c'est en Algérie, à l'ouest d'Alger. Une ville que je connais bien, la ville des roses. Bonjour Fatima.
Oui, bonjour.
Bonjour Fatima.
Bonjour Vanessa, je vous écoute tous les jours. Hein.
Oh, c'est gentil. Voilà, ça me fait plaisir, la ville des roses.
Une fois vous avez parlé du camp des détenus durant la guerre de Gouraya. Je suis exactement native de Gouraya et vous avez déjà visité.
J'ai séjourné.
J'ai 60.
J'ai même séjourné, j'ai voulu passer des nuits là-bas. J'ai passé des vacances. Pardon ?
Je veux savoir une chose.
Oui.
Que moi, étant enfant, à 7 ans, 8 ans, j'allais le soir pour récupérer un peu de soupe qui restait des enfants du Chouada pour qu'on mange. J'habitais la cité à côté.
Mon Dieu.
Il y avait 38 maisons.
Et cette cité, et ce lieu, il s'appelait le Bois Sacré.
Bois Sacré, exactement.
Et ben moi, j'avais passé. Oui, tu es né où ?
Bon, je suis à Gouraya, mais j'ai vécu à Bois Sacré de 63 jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, je suis à Blida.
D'accord. Ben, écoute, moi, j'ai des souvenirs de ce lieu, des souvenirs joyeux et des souvenirs tristes. Pourquoi ? Oui. Parce que, d'abord, comment j'étais, tu sais, la vie fait que c'était une colonie ici en France, parce que j'étais petite, j'étais jeune, hein, je devais avoir, peut-être 12 ans à l'époque, quelque chose comme ça. 11-12 ans. Et voilà, et cette, non, plus tard. Et donc, c'était la colonie de l'Amicale des Algériens en Europe, qui proposait aux parents d'emmener les enfants visiter un peu l'Algérie. Et donc, je me suis retrouvée dans cette colonie de vacances avec les enfants de Chouhada, à Bois Sacré. C'est un lieu où on torturait les Algériens à l'époque.
Oui,
pour ça que la nuit j'entendais des choses bizarres et que voilà, on avait tous des sensations, hein, nous sommes et tout. Oui. Et il y avait des enfants de Chouhada qui vivaient là-bas. Et donc qui me faisaient beaucoup de peine, et je me souviendrai toujours de ces deux frères. Il y en avait un qui devait avoir à peu près mon âge et l'autre
Crois qu'il s'appelle les Larbaoui.
Je sais pas, Wahed Sghir, il était plus jeune.
Et un autre, Larbaoui.
Oh mon Dieu, si je pouvais les retrouver. Tu sais quoi, ils étaient tout le temps ensemble, ils protégeaient son frère.
Et, je pense que c'est Larbaoui, parce que moi, nous étions à côté, on connaissait les deux Larbaoui, qui étaient des frères.
Deux frères.
Oui, écoutez, Vanessa, si on peut se...
Avec plaisir, vraiment.
J'ai des choses à dire et vous avez des choses à m'apprendre.
Je pense, on va noter ton numéro, Hakim.
Voilà, Giovanni. On va essayer sur Messenger ou sur WhatsApp.
Avec plaisir, voilà. Vraiment.
C'est très important parce qu'il y a des choses que je connais, il y a des choses que vous connaissez. On peut faire...
On peut échanger. C'est important. Écrire quelque chose ensemble. C'est très important parce que c'est un pan de mon histoire et c'est resté figé dans ma mémoire et qui me revient comme des flashbacks. Ces jeunes, ces filles, oui, ces garçons qui étaient là-bas. Oui. Moi-même étant fille de Shahid, donc je me sentais frère et sœur de ces jeunes parce que les enfants de qui sont venus comme moi de France, qui étaient pas enfants de Shahid, ne se sentaient pas concernés, mais moi je me sentais complètement impliquée et concernée et je pleurais tout le temps parce qu'ils me racontaient leur histoire et moi je leur disais je suis des vôtres. Et c'est fou ça.
Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelqu'un, l'économe de l'époque, il a vu son neveu. Il était là-bas. Il avait son neveu là, il était père de mère. Parce qu'il a vu ses parents se faire tuer par la collègue Conan.
Oui.
Eh bien, un jour, il était dans le centre de Shohada, il commençait à pleurer, il demandait les photos de ses parents. Et son oncle, un mot. Il a dit à l'infirmier, faites-lui une injection, il va se taire. Ils ont mis une injection, il s'est tué pendant des années. Ils ont essayé de le faire parler en lui faisant peur. Il faut avoir une peur, un choc plus important que la perte des parents.
C'est ça.
Donc ils ont amené un grand camion militaire, ils l'ont attaché, ils l'ont mis par terre, ils ont dit qu'on va l'écraser. Pour qu'il puisse parler, il n'a pas parlé, il n'a jamais parlé. Et quelques années après, j'étais étudiante, une copine. Un des Larbaoui, un des deux frères, il était marié à sa sœur.
Mm-hmm.
Donc, ce bonhomme qui était muet, il s'est marié étant muet, il est de Bidjaya.
Oui.
Et un jour, il est venu, il a parlé à son frère Larbaoui, le jeune, l'Ali.
Oui.
Il lui a dit, comment tu as parlé? Il a dit, à chaque fois, je rêvais qu'il fallait aller se baigner dans un oued, comme le oued de la Havash, par exemple.
Oui.
Et plusieurs fois, il a rêvé ça. Mmh. Et puis après, il fallait faire nusra, égorger
un poulet,
quelque chose comme ça.
Oui.
Voilà. Et quand il a fait ça, il est rentré chez lui, il a parlé.
Subhanallah.
Il discutait normalement.
Incroyable.
Il était marié avec des enfants.
C'est fou.
Il est mort l'année dernière.
Ah,
il s'appelle Mahmoud Bourdouze. C'est comme ça qu'il a repris la voix. Et qu'est-ce qui nous a ramené l'information? C'est un des deux Larbaoui, un des deux frères qui étaient ensemble.
J'aimerais bien qu'on se parle justement, parce que je garde un souvenir. Je pense que c'est eux, ces deux frères qui étaient toujours ensemble. Et moi, ça me poignait le cœur parce que je les voyais toujours. Ils protégeaient son petit frère. Et c'est une image qui m'est restée. Je me suis dit, il a pas son père, Mette Shahid, la Yarahmou Saleh. Et que son frère le protégeait.
Oui,
je me souviens de ces enfants de Shuhada et de ce bois sacré qui y porte bien son nom et qu'on a partagé des moments extraordinaires avec vraiment.
En tout cas, je vous enverrai des photos.
Avec plaisir, oh là là, mon Dieu.
Parce qu'ils ont détruit, l'armée a détruit les deux châteaux qui y étaient.
Oh,
il y avait deux châteaux.
Deux châteaux qui faisaient face, oui, c'est vrai. Face à la mer.
Il y avait deux châteaux.
Oui.
Il y avait deux.
Deux, oui.
C'était un château.
Ils étaient un peu en ruine, hein, mais il y avait deux châteaux, oui.
Non. Ils les ont détruits.
Quelle horreur.
Et maintenant, c'est comme un. C'était mieux, c'est juste avec du parfum, c'est vraiment.
Quel dommage.
Dégradant.
Quel dommage.
Au lieu de les
restaurer.
Voilà, non,
ah oui.
Ils ont détruit.
Parce qu'ils étaient très beaux s'ils avaient été restaurés.
En train de détruire, je suis passé devant parce que, bon, c'est une autre histoire. On va se l'expliquer après.
Eh bien, avec plaisir, Fatima, j'aimerais vraiment parce que.
Ça, c'est mon numéro.
Tu l'as noté?
Oui. Vous notez.
Alors, on l'a pas parce qu'il est pas affiché.
D'accord.
Par contre, Giovanni.
06.
Attends, non. Ne le donne pas à l'antenne parce que tu vas te rembêter des zigotos. Giovanni te reprend tout de suite. Hors antenne, tu vas lui donner. Il va me le remettre. Giovanni, tu reprends Fatima. Fatima, je t'embrasse très fort. Quel bonheur de t'avoir eu. Vraiment, ma'arif tkhir, inshallah. Vraiment. Je suis très heureuse. Tu reprends Fatima et elle te donne son numéro de téléphone. C'est magnifique. Voilà, ça sert à ça aussi la radio. Il y a des moments magiques, vraiment. C'est incroyable, vraiment. Là, j'en ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Il se passe des choses, parfois, dans la vie. Comme quoi, il faut pas en taulies. Voilà, il faut toujours garder espoir. 01 53 48 3000. On a Hakim qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Hakim. Bonsoir, Hakim.
Bonsoir, Vanessa.
Oui, bonsoir, bienvenue, Hakim.
Tu vas bien?
Ça va, je te remercie, et toi?
Ouais, ça va, impeccable, merci.
Notre Hakim, oui.
Ouais, moi, je voulais parler pas du sujet du soir.
Tu peux parler de ce que tu veux, et pas de souci, Hakim.
Ok, d'accord. Je voudrais parler, en fait, de la dernière fois, je sais pas, tu avais parlé avec une auditrice qui s'appelle Sabrina.
Oui.
Qui travaillait à l'aéroport, il me semble.
Oui, à Roissy, une auditrice.
Voilà, et qui parlait, en fait, des personnes qui, voilà, quoi, des personnes qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qui étaient faibles d'esprit, qui étaient
manipulateurs. Non, elle ne disait pas faibles d'esprit. Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas stigmatisé.
Elle
a dit, c'est des gens, parce qu'elle est responsable là où elle travaille, hein, d'accord. Et donc, elle a parlé de, elle a témoigné de ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît. Et donc, de certains, elle a dit certains, pas tous, elle a bien dit, hein, elle a dit pas tous, mais elle a dit certains parmi eux, des hommes. Elle a dit et elle a dénoncé certaines choses, leur côté sexiste, qui ne supporte pas d'être commandé par une femme, et certains qui vont faire la prière à l'heure du travail. Alors, elle leur dit non, là, c'est le boulot, là, il faut du rendement, quoi. Et elle leur dit, moi je suis aussi musulmane que vous, et je sais comment que ça se passe la pratique. On peut rattraper le soir, et ça c'est vrai. On a des parents, on voit des gens qui font la prière, et quand ils font pas dans la journée, ils font le soir. Elle leur a dit, vous faites le soir, vous rattrapez, parce que on a une religion qui est très souple. Et eux ils veulent pas, ils laissent le travail et ils vont faire la prière. Non, tu comprends. Voilà ce qu'elle a dénoncé. Il y a les responsables de son travail. Elle a besoin d'avoir ses employés. Voilà. Ouais,
mais elle a souligné une chose quand même. Elle a souligné le fait que les personnes qui n'avaient pas fait énormément d'études, qui se retrouvent à l'aéroport, à porter des bagages ou je sais pas quoi. Mais les personnes qui n'ont pas fait énormément d'études. Et je dis à ces personnes-là, il y a certaines personnes qui s'en sortent très très bien dans la vie.
Ah, bien sûr, je suis en train d'en parler ce soir. Mais oui, heureusement.
Ils ont des commerces, même des personnes qui sont dans des situations irrégulières.
Non, je lui ai dit ça. Tu sais, moi, j'ai on a des auditeurs. Et je lui ai dit d'ailleurs, ce jour-là, si tu te souviens. On a des auditeurs, et on en connaît même dans la vie, des gens qui sont venus de leur pays d'origine, et qui n'avaient pas de bagages, qui n'avaient pas de papier, qui se sont battus vraiment, qui ont lutté pour régulariser leur situation honorablement, honnêtement. Et donc aujourd'hui, ils ont fondé des foyers, ils sont mariés, ils ont des enfants, les Barkaleum. Ils sont arrivés pourtant bien après d'autres qui sont nés ici et qui ont monté des entreprises, plus ou moins grandes ou des petites entreprises. Et ils emploient des gens d'ici, des Français, alors qu'ils sont venus Melbled.
On peut s'en sortir.
Tu sais, l'intelligence, c'est pas l'instruction ne fait pas l'intelligence. Tu prends par exemple un médecin. Un médecin, il est intelligent juste dans son domaine. Efficace dans son domaine de médecine. Maintenant, le médecin, tu vas lui dire, écoute. Tu lui donnes de la pâte, comme j'ai pris cet exemple. Tu lui donnes de la farine, de l'eau et tous les ingrédients. Tu dis, fais-moi du pain ou fais-moi. Il va être incapable.
Alors, c'est sûr.
Voilà. Alors que le boulanger, il est intelligent et efficace.
Dans sa fonction.
Chacun met son intelligence dans ce qu'il sait faire. Tout le monde est intelligent. Même les animaux, ils sont intelligents. Moi, j'ai des animaux, ils sont très intelligents. Mais oui. Il n'y a pas plus intelligent qu'une fourmi. La fourmi, toute petite, de rien du tout. Elle sait même pas qu'on existe. Tu sais qu'elle sait pas qu'on existe, la fourmi. Parce qu'elle nous voit pas. Eh bien, elle nous voit pas. Elle a pas des yeux assez, voilà. La fourmi, eh bien, t'as vu comment elle est travailleuse, la fourmi? Même La Fontaine, il en a fait une fable. Elle travaille pour l'hiver. Elle porte 10 fois le poids ou 50 fois le poids de son corps. Regarde, il y a l'intelligence. Et elle se met à l'abri et en sécurité. Mais chaque être vivant est intelligent. Chaque être vivant. Donc alors, les êtres humains, n'en parlons pas. Bien sûr, tu as raison. Je te reprends juste après, Hakim. On a une toute petite pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit. Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Vous êtes frileux là, vous êtes chez vous sous la couette, vous pouvez appeler, hein. Tout le monde écoute, tout le monde est curieux de savoir ce que l'autre va dire, parce que je vois les messages. Mais là, ce soir, vous êtes frileux au standard. Non, ça va pas du tout, du tout. Allez, on appelle, ce sujet est très important, vraiment. Donc, venez en parler, venez apporter vos témoignages, venez nous dire ce que vous en pensez. Et si vous-même, eh bien, avez connu un tel sort, hein, voilà, une histoire pareille, comme l'a fait notre ami tout à l'heure, Yacine, eh bien, venez en parler à l'antenne, d'accord ? Venez nous donner vos solutions, comment vous êtes sortis de cette situation, voilà. Vous pouvez parler d'autre chose, comme le fait Hakim aussi. Allez, on y va, 01 53 48 3000, allez, on se réveille. Giovanni vous attend au standard. On reprend avec Hakim. Hakim ?
Oui.
Oui, alors je te laisse continuer, Hakim.
Ouais, je te disais, voilà, quand t'as fait un petit peu le tour de la question que je me posais. Et en fait, moi, j'aime pas les gens, en fait, qui portent une certaine image à des personnes, voilà, qui viennent de d'autres pays, qui viennent ici pour travailler, pour s'en sortir et tout. Et les gens, tu vois, comment t'expliquer ? Ils prêtent pas un jugement, c'est voilà quoi, une image en fait. C'est voilà, cette personne-là vient d'autre pays, d'un autre pays. Oui. Elle est là en France, elle est là pour travailler, voilà. Et en fait, on n'est pas sur le même piédestal, je dirais, tu vois.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
On n'est pas sur le même piédestal. Mais moi, j'en connais dans mon entourage des personnes qui viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, qui étaient en situation irrégulière et tout, qui sont là et qui travaillent plus que des personnes qui sont nées ici, en fait. Tu vois ?
Ouais. Ce qu'on appelle faire des clichés,
des
stéréotypes. Ouais. Mais ça, tu vois, moi, ce qui m'agace encore plus, parce que souvent, voilà. En ce moment, on le voit avec avec cette campagne, etc. On est à fond dans les clichés, dans tout ce que tu veux, et on stigmatise vraiment à tout rompre. Mais moi, ce qui me choque, comme toi, c'est quand des personnes d'une même origine,
ouais,
parce qu'ils sont pas nés au pays, ils sont nés en France, mais ils ont les mêmes origines que ces personnes. Eh bien, les stigmatise, comme tu viens de le dire. Ouais, en disant les blés. Moi, je me suis battue avec ce mot blédard, hein, à l'antenne, hein, les rectifiant, en disant arrêtez de dire blédard. Il y en a qui me disent, oui, mais enfin, c'est comme ça, c'est les blédards. J'ai dit, mais arrêtez, mais vous rendez compte, vos parents, c'était des blédards alors, nos parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Blédard, que ça veut dire? Et on est tous des blédards puisque, en France, un Français peut être blédard, il est né en France. Et le pays, c'est le pays, le bled. Parce qu'en arabe, bled, ça veut dire pays.
Pays, ouais.
Pays, le bled, ouais, c'est pays. Ça. Donc, blédard, ça veut dire être de tel pays, c'est tout. C'est absurde. Et puis, on n'a pas à faire des différences. Parce que d'abord, c'est blessant. Et en plus, c'est des personnes, je veux dire, je suis désolée, qui sont de très bonne éducation, bien au contraire.
Bien sûr.
Pour la grande majorité, ils viennent avec... avec des bagages plein à la tête, parce que ils ont un projet de vie et beaucoup de maturité pour beaucoup, hein. Et puis on n'a pas jugé. On n'a pas jugé. Déjà, on leur ferme des frontières. Si nous aussi, on leur ferme l'oxygène pour pas qu'ils respirent, rahma, comme on dit, rahmat rabbi, c'est où on va, quoi.
C'est vrai.
Il n'y a pas de solidarité. Enfin, elle se perd.
Attends, après, tu vois, moi, si tu veux, je vais changer de sujet. Tu vois, tu parles du milieu carcéral, des prisons françaises et tout. Moi, dans mon entourage, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des petits séjours en prison et tout. Ouais, ouais. Honnêtement, il y en a quelques-uns qui sont bien ressortis, en fait. Et il y en a d'autres qui sont sortis, c'est une catastrophe.
Ouais.
Honnêtement, c'est une catastrophe. J'ai même, vous savez, j'ai même plus de contact avec eux, parce que voilà, la prison les a tellement, en fait, retourné le cerveau.
Ah ouais.
Bah ouais, parce que
c'est fou.
Ah, c'est dingue, parce qu'il y en a certains qui sont prêts. Il y en a qui sont préparés, et il y en a d'autres qui sont pas du tout préparés. Ils connaissent pas du tout ce monde de la prison. Et quand ils tombent dedans. Voilà quoi, ils sont perdus. En fait, ils sont perdus. En fait, la prison, c'est que voilà, il faut connaître des gens. Si tu connais personne, t'es foutu. C'est comme ça, ça se passe. D'après ce que j'ai, d'après mes amis qui m'ont raconté, hein, après moi, j'ai jamais fait de prison.
Oui.
Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont tombés très très bas. Il y en a beaucoup qui sont
qui ont du mal à s'en sortir, quoi.
Bien sûr, mais
à se réinsérer.
Pour te dire, il y en a certains tellement ils n'arrivent pas à comment dire à la pression, parce qu'il y a une forte pression là-bas, tu vois. Et il y en a, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir. Tu vois, ils n'arrivent pas à dormir et ils se soignent avec des médicaments qu'ils leur donnent en prison. Tu vois.
D'accord.
Et pour dormir, pour voilà, pour pouvoir dormir,
pour trouver le sommeil.
Pour trouver le sommeil, ils prennent des cachets. Après, je dis pas tout le monde. Après, il y a la drogue, il y a plein de choses, tu vois. Mais les faibles d'esprit, on va dire. Voilà,
c'est malheureux.
C'est malheureux. C'est malheureux. Et quand ils sortent, ils sont voilà, c'est des légumes.
C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça que bon, comment dire. C'est pour ça qu'il faut tout le temps répéter la même chose et leur dire. Parce que je sais que nous sommes très écoutés dans les prisons. Et bien dire à ces jeunes. Moi, je répète régulièrement hein, en leur disant que ils mettent à profit. Enfin, mal à profit. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, ce séjour malheureux. Et bien pour apprendre des choses. Apprendre des choses, ouvrir des livres, s'instruire, pour faire des projets, pour préparer leur sortie. Pas préparer leur retour. C'est très important. Il faut vraiment. C'est très, très, très important, ça, hein, parce que ce que tu viens de décrire, c'est vrai que c'est vraiment.
C'est l'enfer.
C'est désastreux.
C'est l'enfer. Mais mes amis, ils me le disent, ceux qui sont partis, ils ont fait. C'est pas le premier séjour qu'ils ont fait. Ils ont fait 2-3 séjours. Mmh. Et voilà, ils sont, on va dire, entre guillemets, ils sont habitués. Ils savent comment ça fonctionne.
Oui.
C'est pas, voilà, quoi, ils mettent un pied, ça y est, c'est bon. Ils pètent un plomb.
C'est l'enfer.
C'est l'enfer. Il y en a qui sont préparés. Et il faut être bien entouré. C'est le principal là-bas. C'est qu'il faut être bien, 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 bien entouré. Si on est très, très mal entouré, on est.
Ouais.
Alors, on va chuter vite.
Mais ouais, bon, après c'est un milieu assez particulier quand même. Hein. C'est spécial.
C'est un milieu particulier. Mm-hmm. Très difficile à vivre.
Ouais.
Très difficile à vivre pour une personne.
Oui.
En plus de ça, si une personne apprend plusieurs années de prison, je sais pas comment a fait cette personne pour tenir.
Oui.
En plus de ça, s'ils ont des
familles.
C'est
pour ça qu'il faut.
C'est
ça.
C'est dur.
C'est pour ça qu'il faut vraiment éviter au maximum. Vraiment éviter de trébucher et essayer de s'en sortir dans la vie et pas écouter les mauvaises personnes, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vous diront « Viens mon frère, il y a une bonne affaire » et tout, etc. Ton frère, il te mènera pas à la casse-prison. Ton frère, il te guidera jamais vers des histoires. Souvent, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Viens, je t'aime bien, t'as pas d'argent, viens mon frère, je vais t'aider
c'est
et tout.
Comme ça, c'est...
Aider, il t'aide pas du tout, il t'enfonce. C'est ça qu'il faut leur dire, il t'enfonce, il va t'enfoncer, il emmènera pas son frère, il t'emmène toi. Donc non, n'écoutez pas. Écoutez vos parents, écoutez cherchez du travail pour vous en sortir petit à petit. Vous pouvez faire des projets pour plus tard, etc. Mais il faut commencer petit. On peut pas monter au cinquième étage sans passer par le premier, le deuxième et le troisième. Donc, palier par palier, bchouia, bchouia. Donc, allez-y doucement, petit gain. Après, bchouia, bchouia, voilà. C'est ça qu'il faut leur dire. Il n'y a pas de saut métier, ça n'existe pas.
On pense ce que tu veux dire.
Oui.
Mais tu vois, on vit dans une société de consommation. Tu vois, une société de consommation. Les gens, maintenant, les jeunes, ils veulent tout d'un coup. Comme ça, en claquant des doigts. C'est difficile de leur dire il faut aller travailler, tu vas toucher tant, c'est plein de, tu vois, il y a plein de parasites dehors. Je veux dire, j'appelle ça comme ça, des parasites.
Bien sûr.
Qui te parlent dans l'oreille.
C'est des chétanes, moi j'ai envie de dire.
Des chétanes. Et on est vite influencés, tu vois.
C'est vrai.
On est vite pris dans le truc, en fait.
Oui, parce qu'il y en a qui sont plus faibles que d'autres.
Voilà,
il y en a qui sont plus faibles, donc ils vont tomber dans ce qu'il faut pas. Hein. Ceux qui stigmatisent ces jeunes en disant les prisons elles sont peines avec des gens, la plupart issus de l'immigration. Non, avec des jeunes qui sont issus de quartiers, il faut dire. Oui. Peu importe d'où ils viennent. Voilà, ce serait d'autres origines, c'est pareil. C'est des quartiers. Oui. Pourquoi des quartiers ? Parce que ils se retrouvent dans des endroits ghettoisés, hein, des ghettos où ils se retrouvent entre eux, ils se montent la tête entre eux, et ils se disent, viens, il y a de l'argent là, machin, etc. Mmh. C'est tout, c'est des groupes de gens. C'est pas des groupes de personnes qui sont de telle origine. Oublions les origines. C'est faux de prendre le problème par ce bout. Et là, on, voilà, tout le monde, il y en a beaucoup qui tombent dans le piège en disant, ah oui, les jeunes de l'immigration, dont, voilà, tombent, ils sont dans les prisons, etc. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les gens où ils habitent, d'où ils viennent. C'est ça qui est important. Parce que vous en avez aussi issus de l'immigration, mais qui vivent dans des quartiers ailleurs, dans des quartiers à Paris ou des quartiers tranquilles où il y a des pavillons, des tranquilles quoi, où il y a pas, où ils se regroupent pas, eh bien où ça fait pas ghetto et ça se passe bien. Ceux-là, on n'en parle pas. Voilà. Ouais. Donc et ces jeunes, c'est parce qu'ils se retrouvent groupés. C'est parce qu'ils sont groupés. Peu importe. Il faut qu'on oublie les origines. Bon, moi, tu vois, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas de comment, on n'entend pas ce son de cloche à la télévision, sur les plateaux télé, parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui leur disent ce que je suis en train de dire ce soir en disant non, arrêtez, parce que là, vous abordez le sujet d'une manière, enfin, complètement erronée. C'est pas des jeunes issus de l'immigration, c'est des jeunes issus de certains quartiers. Donc, qu'ils soient de telle origine ou d'autre, si on met des gens qui soient d'origine européenne, que ce soit n'importe où d'Europe, et on les met dans ces quartiers-là, eh bien, ils tourneront pour la grande partie mal, comme ces jeunes.
Ouais, bien sûr.
C'est pas parce qu'ils sont issus de l'immigration. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est parce qu'ils sont regroupés dans des quartiers, dans des ghettos.
Ouais. Mais je tenais à dire aussi une chose, Vanessa.
Oui.
C'est que t'as vu les jeunes de maintenant. Tu vois les jeunes de maintenant. Ils sont trop influencés par une musique, en fait, par le rap. Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'écoute du rap. Tu vois, et d'ailleurs les paroles de rap, c'est quoi, ça influence les jeunes, en fait ça influence les jeunes à faire de l'argent vite, dans une bonne voiture, à tuer.
Quelle horreur.
Tu vois, c'est un truc de dingue.
Oh mon Dieu, j'écoute pas alors, mais je sais que c'est violent. En fait,
c'est comme un lavage de cerveau.
Ouais, certains textes.
Il y a certains, et voilà, ils tombent dedans. Je suis là pour le rap.
Oui, mais certains textes, c'est vrai que.
Certains textes, c'est trop
ça les pousse à aller chercher de l'argent. Voilà. Ils ont tous des chaînes en or. Est-ce que ça fait le bonheur, ça fait l'homme d'avoir des chaînes en or? Moi, je suis une femme, je porte même pas une petite chaîne fine. Ouais, ou même pas une bagouze. Même pas. J'aime pas l'or déjà. Donc, je comprends pas. Arrêtez de regarder ces bêtises. Arrêtez. Ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir une vie tranquille. Quand vous dormez la nuit, vous dormez tranquille, c'est tout. Et puis rêver d'une chose, c'est d'avoir un foyer avec des enfants. Quand vous aurez votre bébé, le premier qui naît, vous allez voir comment vous allez être heureux. Vous, les jeunes qui m'écoutez, qui êtes dans les prisons, écoutez-moi bien ce que je dis. Le premier qui naît de vos bébés, quand vous allez le voir sortir du ventre de sa mère, mais vous pouvez pas savoir, mais vous êtes le roi du pétrole. Vous êtes le roi du monde. Parce que vous avez, vous rendez compte le cadeau que Rabbi vous donne. Voilà, vous avez fait quelque chose. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça votre mission sur Terre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté des chaînes en or? Vous avez vendu de la drogue? C'est ça, mon Dieu? Et vos parents qui pleurent? Et votre mère qui attrape des maladies, etc. Et vous abrégez la vie de vos parents? Non. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte. Arrêtez. Vraiment. Il n'y a pas comme le travail honnête. Il n'y a pas. Un salaire à la fin du mois sur votre fiche de paye, vous êtes fiers de vous. Vous payez votre loyer, vous avez vos enfants, votre foyer, vous mettez de l'argent de côté, vous payez des vacances à la fin de l'année, en été. Quel bonheur, quelle joie, vous faites votre bonheur, celui de vos parents, celui de vos enfants. C'est ça la vie. C'est pas avoir des belles voitures, les nanas, et les bagues, et les machins. Mais ça sert à rien. Tout ça, c'est de la fumée. C'est de la poudre aux yeux, ça vaut rien. Croyez-moi, ça vaut rien. Moi, je suis une femme et je vous parle. Je vous jure, Wallah l'Adim, j'ai même pas une bague en dents. Voilà. Je peux pas vous dire mieux, j'ai juré. Je peux pas mentir. Je n'ai pas. Voilà. Et je n'aime pas ça. C'est quelque chose. Voilà. Je n'aime pas. Voilà. Point barre. Alors, comment vous pouvez, vous, regarder ça? Et j'ai vu, moi, des clips. Ils ont des chaînes. On dirait des chaînes de vélo, mais en or. Sur le coup. Et ça pèse des tonnes. Ils ont des voitures, je sais pas leur marque.
Tu regardes, Vanessa.
Qu'est-ce que, hein?
Quel type de rap tu regardes?
Ah, je sais pas, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Mais il y a longtemps, parce que je regarde.
Ah, c'est il y a longtemps. Mais maintenant, c'est des belles voitures, voilà, c'est.
Oui, j'ai vu ça aussi, des belles voitures avec des filles très dévêtues.
Voilà, voilà aussi.
Très dévêtues. Et les garçons, de temps en temps, ils disent, Mashallah, ah là, je sais pas quoi.
Ah, mais,
alors, ils ont des filles dévêtues à côté, et ils évoquent Allah de l'autre côté. Non, mais. Hambabakoum, arrêtez. Arrêtons le cinéma, arrêtons le cirque.
Non, mais c'est ça maintenant, les jeunes de maintenant, tu vois. Moi, tu vois, Vanessa, moi j'ai des frères, tu vois, j'ai des petits frères. Tu vois, des petits frères, tu vois. Moi, je leur ai toujours dit. Voilà, ils écoutent du rap, tu vois, ils écoutent du rap et tout.
Il y a du beau rap propre. Il y a du rap propre. Nous, on passe du beau rap, hein, sur Beurre FM. Il y a du rap propre, la vérité.
Bien sûr. Voilà. Je leur dis tout le temps, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, travaillez, de l'argent, venez me voir directement. Ne passez pas par des trafics, par des trucs, des business qui tient même pas sur une jambe. Ne passez pas dans ces trucs-là, parce que vous allez rentrer dans ces trucs-là. Vous allez tomber très très bas.
Mais oui.
Il n'y a pas de business. C'est mort.
Business, c'est quelque chose de propre, qu'on fait proprement. Propre. Travail.
Voilà, exactement.
Regarde tous ces jeunes qui sont jeunes et qui tombent. Il y en a un l'autre jour à Marseille encore. Et ces jeunes qui meurent, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et voilà, ils se font tirer dessus, ils meurent parce que des règlements. Ils les utilisent.
Ils les utilisent
et puis après, je sais pas, ça tourne mal. Et paf. Après, ils se font tuer, M'saken. Mais les gros bonnets, là, ou je sais pas comment on les appelle, ceux-là, ils meurent jamais, tu les vois jamais.
Ah, tu les vois jamais.
Ceux-là, tu les vois jamais. Les jeunes, ils s'entretuent entre eux. Non.
C'est grave. On vit dans une société, c'est compliqué, honnêtement, c'est compliqué. Même les parents, ils peuvent rien faire avec tout ça.
Ils sont perdus, les parents.
Ils sont perdus.
Qu'est-ce que tu veux que les parents, ils peuvent contrer contre. Ils peuvent pas. Ils peuvent rien faire. Les parents, déjà joindre les deux bouts, c'est beaucoup pour eux à la fin du mois. Ils vont pas leur acheter des voitures de machin, de malades et des grandes maisons. Ils ont des maisons avec des villas, des piscines et tout. C'est du rêve, ça. Est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux?
Non.
Babacom.
Non, on n'a pas besoin. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent déjà. Sale. Tu vois, c'est de l'argent
bien
sale.
Bien sûr.
Je veux dire un truc aux jeunes, c'est qu'il y a assez d'argent en faisant du halal. Il y a beaucoup d'argent dans le halal. Arrêtez d'aller aller tout le temps dans le haram. Dans le haram, ça ne paye pas.
Ben oui.
Ça ne payera jamais.
Ben oui. Ils vendent de la mort.
Voilà.
Vous allez
payer une maison à vos parents avec de l'argent haram. Comment ils vont vivre, vos parents?
Oui.
Ils vont vivre bien? Non, je ne pense pas.
Ben non.
Arrêtez vos conneries. Je parle pour tous les petits frères qui sont incarcérés. Voilà, bon courage. Et pour la suite, votre sortie, Inch'Allah. Que du bonheur pour vous et votre famille.
Voilà.
Ça veut dire.
Et rangez-vous surtout. Voilà.
Rangez-vous. Rien de.
Ben oui. Regarde-toi, tu travailles à la sueur de ton front, tu travailles jusqu'à pas d'heure, quand même malade. Tu as 37 ans, tu fais que ça, tu n'as même pas pensé ni à te caser, à faire ta vie, parce que pourquoi tu travailles quand même malade. Du matin jusqu'au soir.
C'est ça.
Voilà. C'est, ça. Ben, c'est magnifique. Moi, quand je. Franchement.
C'est gentil.
Non, mais c'est vrai, quand je pense à des gens comme toi. Bah, je suis fière, je dis voilà. C'est ça l'exemple. Voilà.
Ouais,
Hakim tout seul, il travaille mskin, il se donne à fond. Voilà. À cette heure-ci, il travaille encore, hein, Hakim. Hein. Il travaille du matin jusqu'au soir.
Exactement.
Il se donne à fond, hein. Voilà. Voilà, pour travailler ça, de l'argent propre.
Voilà, c'est ça. Il y a que ça qui paye.
Eh ben, ça paye, Warbi, Aounak, Inch'Allah.
Amin.
Inch'Allah, oui, Farah.
Merci, c'est gentil. Et pour te dire une chose.
Oui,
vas-y. Par rapport aux annonces que j'ai
passées. Oui, alors
tu vois, ça y est, c'est beau.
T'as trouvé?
J'ai trouvé quelque chose de très, très intéressant.
Ah là là.
Voilà, merci beaucoup, Vanessa.
Je suis content, tu peux pas t'imaginer.
Merci beaucoup.
Alhamdoulilah, Yarbé. Donc, ça y est, ça se passe bien avec elle et tout.
Ouais, Alhamdoulilah.
Yarbé. Je t'ai dit, hein.
Je recherchais, en
fait. Tu te rappelles, je t'ai dit, tu vas tomber sur Beth Familia. Je t'ai dit.
Ouais, voilà.
Et tu sais quand? Tu te souviens le jour, il y a, je crois, 2 semaines, je t'ai dit, je t'ai allumé une bougie.
Ah ouais, je me souviens, ouais.
Ah, je t'ai dit, je peux être Dawa, je t'ai allumé une bougie.
Elle a fonctionné.
Alhamdoulilah, Dawil Khair. Tu sais, il faut faire tout. surtout avec Nia. Quand on fait avec Nia, ça marche.
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'est vrai, je suis heureuse. Merci. 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 Merci.
Je voulais pas appeler plus tôt, mais vas-y, j'avais pas trop le temps.
Je comprends. Tout, mais je suis très heureuse, vraiment. Tu peux pas t'imaginer.
Merci beaucoup. Là, je suis super content.
Quel bonheur,
Yann. Super FM, honnêtement. Merci toi aussi.
Quel bonheur.
De m'avoir aidé par rapport aux annonces et tout. J'appelais tous les jours. Et honnêtement, parce qu'on m'a posé la question à chaque fois, ouais, est-ce que ça marche vraiment, ça marche vraiment et tout. Je dis, ça marche.
Bien sûr.
Honnêtement, il faut avoir la volonté et il faut pas lâcher.
Il faut être Nia, être honnête et sincère. Et honnête. Moi, quand je parlais de toi, je disais, il est sincère, il est honnête, je le garantis. Parce que mais oui, je sais à qui j'ai affaire, vraiment.
C'est gentil, Vanessa.
Bah écoute, Rabbikum el Kumbel Khair, Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Et tu me tiens au courant pour la suite.
Je suis au courant, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci.
Très contente, vraiment.
Merci beaucoup, Vanessa. Je rappellerai.
Avec plaisir, Hakim, tu es chez toi, je t'embrasse fort.
C'est gentil, merci beaucoup.
Beaucoup de bonheur, à bientôt, Inch'Allah. Salama, au revoir. Oh, comment je suis contente ce soir. Oh, je vais bien dormir. Ah, je suis contente, vraiment, je suis heureuse. Hakim, vraiment. Mais oui, désespéré à un moment donné, parce qu'il mérite vraiment de tomber sur quelqu'un de bien. C'est un garçon, mais génial, vraiment. Et je voulais vraiment qu'il tombe sur quelqu'un de bien. Et je suis très, très, très heureuse d'y avoir contribué, vraiment, vraiment. Voilà, grâce à Beurre FM, il a rencontré, eh bien, l'âme sœur, et ça se passe bien. Voilà ma fierté pour Hakim. C'est mérité, en tout cas. Alors, on va tout de suite accueillir Karim de Lyon, on a Sophia de Paris. On prend Sophia. Allez, un homme, une femme, un homme. Sophia et Karim juste après, et Asma en troisième position. Bonsoir, Sophia.
Bonsoir, Vanessa. Je suis pas trop bien.
T'es pas bien, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Où je bec?
Bah, tu sais, une fois, je t'avais raconté une histoire de mon fils. Tu te rappelles l'histoire de l'enfant sur le dos d'une Marocaine? Non, tu te rappelles pas, un jeune? Je t'avais appelé un soir.
C'était quoi?
C'était très mal, très, 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 très mal fini. Ça m'a fini.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, mon fils, il est en prison. 30 mois, 3 ans.
Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est la mère de la femme marocaine, je sais pas comment...
Pourquoi tu dis la femme marocaine? La femme, tout simplement?
Non, parce que pourquoi je dis la femme marocaine? Je vais te dire pourquoi. Je l'ai appris par son copain, quand ils sont partis la voir. Bon, c'est une rencontre d'un jour, hein, tu vois, je savais...
Mais oui, mais c'est pas la peine de donner les origines des personnes.
Ouais, mais attends...
Qu'elle soit algérienne, tunisienne, mexicaine...
Non, c'est pas par rapport aux origines, c'est par rapport à ce qu'elle a fait.
Oui, mais ce qu'elle a fait... Oui, mais regarde... Ça décrédibilise tout ce que tu vas dire.
En fait, il m'a dit, le copain, il a voulu fuir cette femme, ils ont voulu fuir.
Oui, mais c'est une femme. Oui, mais maintenant, tu stigmatises toutes les femmes marocaines, parce que tu mets tout le monde dans le même lot.
Elle, particulièrement, non.
T'aimerais qu'on dise la femme algérienne?
Non, tu comprends pas.
Bah si, je comprends.
Elle a fait, si tu veux, il a vu. Elle a fait les choses, c'est-à-dire le jour où ils ont pris les gâteaux, le thé, tout ça. Impossible de rentrer à la maison. Ils pouvaient plus rentrer.
Je comprends pas.
Comment il s'est retrouvé avec... Bon, bref.
Attends, ton fils, il est en prison parce qu'elle a fait des bêtises?
Non, attends, je vais expliquer.
C'est incroyable, cette histoire.
Non, attends, c'est pas ça.
Non, excuse-moi, mais Sophia... Ton fils, il a pris 30 mois, il n'a pas pris 3 jours, 3 mois. Il a pris 30 mois, c'est parce qu'il a fait des bêtises. Alors tout de suite, c'est la faute de la femme marocaine. Non, mais attends. Non, je peux.
Laisse-moi t'expliquer.
Ouais, mais je ne peux pas te laisser aller plus loin. Excuse-moi. Hein. La prochaine fois que tu reviens, tu ne stigmatises pas et tu ne cites pas les origines des personnes. Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Ça, tu en as dit trop. Voilà, dès qu'on cite les origines, on stigmatise. Ce soir, vous voyez, justement, on est en train de dénoncer. Les gens qui stigmatisent, voilà, la stigmatisation, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc on est en train de dénoncer la stigmatisation. On en a assez. Donc ces jeunes, que ce soit les jeunes, tout le monde, etc., tout le monde y prend pour son grade. Tu vois? Donc quand il se passe quelque chose, par exemple en ce moment avec la campagne, etc., certains, quand ils disent les gens de banlieue, les gens, les immigrés, les musulmans, ils disent pas algérien, marocain, tunisien. Ils disent les musulmans. Ils mettent tout le monde dans le même panier. Tu vois? Alors, si nous-mêmes, on se stigmatise entre nous en disant l'autre marocain, l'autre algérien, l'autre tunisien, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est juste pas possible. Je comprends pas. Faites un peu comme d'autres. Moi, je sais pas, j'ai des amis dans d'autres confessions que je ne nommerai pas. Bah, quand ils parlent d'eux, ils parlent de la personne. Quand ils dénoncent quelque chose qu'ils n'aiment pas, bah, c'est la personne. Mais au grand jamais, ils disent là ceci ou là cela. Hnaïa, marocain, tunisien. Non, ça passe pas. très honnêtement, on stigmatise, ça passe pas. Voilà. Donc tu rectifies, Sophia. Tu repasseras un autre jour, mais tu repasseras, mais sans donner de détails, genre voilà, la femme, etc., ses origines. En plus, ton fils, il est en prison. Ça fait de la peine, la vérité. T'es une maman, je te comprends. Lui, ça fait mal au cœur pour lui, c'est un jeune. Mais s'il est là-bas, c'est qu'il a fait des bêtises. Voilà, tu me sors les gâteaux, les machins, n'importe quoi. Bref, c'est ça le problème. On a l'art de détourner les choses. Karim, il nous appelle de Lyon. Bonsoir, Karim.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue, Karim.
Merci Vanessa, je t'ai téléphoné quelques fois, on n'a pas toujours été d'accord sur certains points, mais c'est rien du tout. Je t'écoute parler.
Ça arrive.
Je t'écoute parler, je te remercie. Tu es toujours quelqu'un de droit, de juste, et j'approuve beaucoup ce que tu viens de dire à cette dame, de pas mettre en avant les origines marocaines, algériennes. Oui, il y a déjà assez de méchanceté dans ce monde pour qu'on rajoute des choses comme ça. Pour diviser,
mais oui.
Mais la haine un peu. Tiens, l'autre, c'est un Marocain, l'autre, c'est un Algérien.
Ah,
et franchement, c'est bravo pour dire que c'est pas normal tout ça et tout, de toujours s'attaquer et de dire
c'est honteux. Voilà, c'est honteux. On n'a pas à se stigmatiser. Je veux dire, on est. Déjà, j'aime pas le terme communauté, mais on nous met. On nous nomme comme tel. Donc si on est une communauté, on dit les Maghrébins, on est une communauté, les musulmans, tout ce que vous voulez, mais entre nous, si on commence à se stigmatiser en disant l'autre, on est là, on va dans le mur, là. Là, on va dans le mur, là, on tombe dans un piège. Oui. C'est pas, et ça passe pas. Je suis désolée, mais je l'ai coupé, hein, ça, je peux pas.
Ben oui, et tu sais, Vanessa, moi, j'ai des petits-neveux, leur maman, elle est marocaine, mon frère, est algérien,
ben
tu
oui.
sais qu'elle fout en ce moment. Alors, quand il y a le Maroc qui joue, tonton, viens, il y a le Maroc et tout.
Oui.
Ils sont heureux. Quand c'est l'Algérie qui joue, viens, tonton, l'Algérie joue.
Tu vois, c'est beau.
Les enfants, ils font pas de différence.
Mais oui.
Donc,
mais
ils aiment les deux. Alors, quand tu, des fois, quand tu grandis, tu entends cette division, tu es curé.
Moi, je la vois pas. En plus, je n'ai jamais vu de différence. Mais alors, on a beau chercher, hein, tu peux chercher. Entre un Marocain, un Tunisien. Un Algérien. Moi, je parle des trois pays du Maghreb qui sont vraiment très proches, hein. Très ouais. proches par la culture, par beaucoup de choses, hein. L'alimentation, oui. la culture, la religion, tout ça. Je ne sais pas. Moi, j'ai une maman, quand elle regarde la télévision marocaine. Elle me dit, ah, Wahed Moussel, je regarde un feuilleton, j'adore et tout. Elle comprend. Elle comprend pas l'arabe littéraire, mais elle comprend. Le marocain, pourquoi elle est algérienne, alors qu'on comprend le marocain, elle me dit oui. On comprend parce que c'est le même langage et elle adore. Les frontières, les gens, ils peuvent pas enlever les frontières de leur tête, ils sont tombés dans un piège, c'est incroyable. Les frontières n'existent pas. Voilà.
C'est sûr, surtout aujourd'hui.
C'est le grand Maghreb.
Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi des fois je vais sur des forums, mais laisse tomber, c'est une catastrophe.
Ben oui, ils sont tombés dans le piège.
Ceux des réseaux sociaux, c'est une minorité, heureusement. C'est une minorité,
ah, oui.
mais t'as l'impression que c'est tout le monde. Et cette minorité,
parce que c'est violent.
Qu'est-ce qu'elle fait du mal? Qu'est-ce qu'elle fait du mal? T'as les Algériens qui s'insultent d'un côté, les Marocains de l'autre.
C'est honteux.
Nous, on est mieux que ça, les autres, on est beaucoup mieux que ça.
Mmh.
Tu dis, mais vous rendez compte, un peu, vous rendez compte. Comme tu disais souvent, Vanessa, il y a tellement de guerres, de choses tellement, tellement violentes dans ce monde.
Mais oui.
Vous n'avez pas envie de voir autre chose.
Mais c'est ça. Et en plus, parce que les gens, ils tombent dans le piège. Ils se cherchent des différences là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Vous avez la même. Déjà, il y a une religion qui prédomine. On sait très bien, l'islam. Donc, la même religion, vous priez la même chose. Mm-hmm. Vous mangez pareil, vous parlez pareil, vous vivez pareil, la même culture. Pourquoi vous cherchez les divisions? Je ne comprends pas. Il y avait une fois, parce que souvent, bon, ça arrive, des couples qui veulent s'unir, etc., et que les parents d'un côté disent non, alors algérien, marocain, enfin, ça me vraiment. Et donc, j'essaye toujours de dire à ces jeunes, non, tenez bon, c'est vous qui avez raison, quoi.
Bien sûr.
Et bien, une fois, il y a bon nombre d'années, il y avait un couple, lui est algérien, elle est marocaine. Et donc, tous les deux très, très bien, gentils, mignons, tout ce que tu veux. Vraiment bonne éducation, chacun de son côté. Et lui, elle, Mskina, elle avait perdu ses parents très jeune, donc elle a des frères et sœurs. Et lui, ses parents, ne veulent pas. Ils disent non, 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 faut que tu te maries avec une de chez nous, algérienne, de Kabylie, de Kabylie, donc Kabylie, ouais, machin, etc. Limite presque même village, tu vois, la cousine. Alors lui, il aime cette jeune femme, c'est, et tout se passe bien. Je vois pas pourquoi. Alors donc moi, je les ai encouragés d'aller jusqu'au bout. Donc ils ont été jusqu'au bout. Alors, les parents n'étaient pas contents du garçon. Oh non, t'as pas ramené une Kabyle de chez nous, t'as ramené une Marocaine, ta, les histoires, ta. À ne plus en finir. Elle a tenu bon. C'est une fille, une femme remarquable. Mmh. Elle est patiente, Mskina, chède à la patience. Elle est passée outre les paroles qu'elle a entendues. Elle a fait comme si elle n'entendait pas. Elle est passée outre tout ça, tu vois, elle s'est bouchée les oreilles, elle a été vraiment très patiente. Aujourd'hui, ils ont, je crois, 3 enfants, ils vivent une vie merveilleuse, vraiment, je te dis, à bon nombre d'années, puisque sa fille, elle a passé son bac et tout. Tout se passe très très bien. Eh bien, écoute bien, les beaux-parents, ils ont 2 autres fils, qu'ils ont mariés avec des cousines.
Oui.
Hein, des cousines. Eh bien, la belle-mère, elle adore sa belle-fille marocaine. Elle l'adore. Pourquoi ? Parce qu'elle est d'une gentillesse, d'un respect incroyable. Oui. Donc, le respect de la belle-mère, etc. Jamais un mot plus haut que l'autre. Elle a patienté, même si elle a entendu des choses. Et puis, elle a toujours été correcte avec eux. Quand la belle-mère, elle est malade, c'est elle qui la soutient, c'est elle qui est là, c'est elle qui s'occupe d'elle, c'est elle qui le ramène à manger quand il faut, etc. Le respect, je ne peux pas te dire mieux, mais familial, t'as ça. Eh bien, les 2 belles-filles, qui sont les cousines de la famille, les cousines Kabylie, de chez eux, cousines et tout. C'est une catastrophe. Les histoires, tchaklala en famille, la guerre mondiale. Mais alors, tous les prétextes sont bons. La fâcherie, je te raconte même pas. Ils font des trucs, ils invitent pas la belle-mère, des histoires à s'insulter et tout. Ben, la belle-mère, elle a dit, tu te rends compte, je fais herbe. Elle s'est dit un jour, elle a dit à son fils, tu te rends compte, celle que je voulais pas, eh ben, elle est halalia.
Ouais.
Elle est halalia et qu'elle est plus que ma fille, ce qu'elle me fait. Elle a dit, et les 2 qui sont de mon sang et de ma chair et de mon sang, eh bien, regarde le mal qu'elles nous font et les histoires, etc. Elles sont avérées les pires ennemis. Tu vois ?
C'est clair.
Alors, voilà.
Tu vois ? Moi, j'ai ma belle-sœur, je dis tout le temps, on a la chance, on a eu une fille exceptionnelle. C'est une Marocaine exceptionnelle.
Ben oui.
Et c'est exactement ce que
tu
as dit.
Tu vois ?
Je ne vais pas le répéter.
Mais oui, la même chose.
Donc, on a une fille kabyle, une fille une algérienne, mais je dis tout le temps, franchement, et c'est tu peux pas le nier, c'est une fille exceptionnelle pour la famille et pour toute la famille quand elle vient chez elle.
Tu vois.
Après, je voudrais te dire autre chose sur un autre sujet, Vanessa.
Oui.
Je remercie la personne qui est passée avant, qui a parlé un peu des prisons et tout.
Oui.
Je trouve qu'il a passé de bons messages.
Hakim, ouais.
Hakim, je lui dis merci Hakim. C'est très bien tout ce que tu as dit, que voilà, quoi, il y a dans la vie, il vaut mieux gagner sa vie sans avoir quelqu'un qui vient taper à la porte. Monsieur, vous êtes convoqué au tribunal.
Ouais.
Tu vois, donc on est tout le temps derrière toi, tu dors pas tranquille. Moi, je veux dire une histoire. On va dire en gros, c'est rapidement. Je connaissais une famille, malheureusement, ils ont tous terminé soit la prison, soit ils ont décédé. Et je te promets, la mère Vanessa, décédée dans l'escalier.
Ah.
Tout le temps, c'est comment ? Toute sa vie, elle l'a passée, on l'appelle de la maison d'arrêt. Telle maison d'arrêt.
Quelle horreur.
Toute sa vie, elle partait avec un sac, tu sais, sans permis, sans vraiment savoir se diriger. Je dis par exemple à ces jeunes qui écoutent, mais vous, est-ce que vous vous rendez compte un peu comment ils prennent sur la tête les parents ?
Ben oui.
Ils ne dorment pas à votre place et tout.
Bien sûr. Donc,
quand vous êtes enfermé, et comme on entend souvent cette phrase, tu sais, quand on parle des prisons, on dit. Il faudrait construire plus de prisons. Tu la connais, cette phrase, Vanessa ?
Ben oui, on n'entend que ça. Ben
Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'on devrait dire qu'il faudrait qu'il y ait moins de monde qui rentre. On dit construire plus de prisons. Ben, c'est la meilleure, ça.
C'est vrai.
C'est vrai ce que tu dis.
C'est vrai.
C'est incroyable de parler comme ça, quand même, pour construire plus de prisons. Et tout. Et donc, moi, je dis aux jeunes, ne compte sur personne pour venir te sortir de là. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu aimes tes parents, ta famille. Il faut que tu dises, je ne reviendrai plus ici. tu ne reviendrais pas là, parce que il n'y a que toi qui peux quelque part te tendre la main toi-même. Si tu ne le fais pas, tu vas au-devant de très très grave. En fait, tu ta vie, bah, tu la balances. Tu l'as eu, elle va. Tu vas aller de pire en pire.
C'est vrai.
S'ils m'écoutent, ces jeunes, je leur dis, quand tu sortiras, il faut te promettre qu'on ne te reverra pas ici. Vaut mieux gagner de l'argent, même à peine de quoi manger, comme tu disais, pas besoin de mettre des bagues en or.
Bien sûr.
Pas avoir quelqu'un qui vient taper à la porte, te dire, au fait, demain vous êtes convoqué. Tu te rends compte
de
la vie que tu as.
Oui, et puis les parents qui ont rêvé, tu sais. Moi, je leur dis à ces jeunes, hein, souvent, je dis, le ventre s'arrondit, la maman, plus s'arrondit le ventre, plus elle caresse son ventre, et puis elle, tu vois, elle rêve et elle espère, toujours, elle dit, Inch'Allah, il va faire des études, Oulédé va faire ceci, il va faire cela, tu vois, elle rêve une belle vie pour son enfant, quoi. C'est ça, le rêve d'une maman. C'est pas quoi, d'aller lui rendre visite au parloir, jamais de la vie. Tu te rends compte, il se scène pour payer des avocats, il se scène pour cantiner. La mère, le temps d'arriver jusqu'à la prison, jusqu'au parloir, elle a versé des tonnes de larmes quand elle prend les transports. Le père, il rase les murs. Il rase les murs parce qu'il a honte, parce qu'il est pointé du doigt. Et parfois, ils sont obligés de mentir aux gens parce que, même si les gens savent, mais les gens sont méchants. Donc, il est où ton fils? Tiens, ça fait un moment, on l'a pas vu. Les gens, ils attendent que de toute façon.
C'est sûr.
Alors, donc, ils sont obligés de mentir en disant, non, il est parti travailler à l'étranger, Irdem et tout, tu vois. Donc, tu vois, obligé de mentir, obligé de raser les murs, obligé de se saigner. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Vraiment, arrêtez. Arrêtez.
Comme disait la personne avant, gagner de l'argent sale.
Oui.
Tu te rends compte ce que c'est? Et tout? C'est de l'argent sale, voilà, il n'y a pas de mots. Ce que tu as gagné, c'est t'as aucune fierté à aller ni à le gaspiller, ni à le manger. Tu vois, c'est comme c'est si ça. Tu mangeais une sorte de poison.
Mais oui, mais oui.
Parce que tu l'as pris à des gens aussi. Mais ça, il ne faut pas accepter
et
ça.
Et puis c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête.
C'est sûr.
Parce qu'ils ne dorment jamais tranquilles.
Bien sûr.
Parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Si ce n'est pas la police qui vient les chercher. C'est peut-être des personnes avec lesquelles ils font ces espèces de ce qu'ils appellent business, qui viennent se venger ou je sais pas quoi, et ils finissent parfois jeunes, et il y a beaucoup de jeunes qui meurent très jeunes. Souvent on voit à la télévision, hein, règlement de compte entre eux, oui, il y avait un casier, il faisait ça, trafic, voilà.
Mais ça
suffit, quoi. C'est...
Oh, ben, ça, c'est le pire qui peut t'arriver. Mais même c'est si terrible. Ça t'arrive pas. Même si ça t'arrive pas, quelle vie tu as, toi? Quelle vie tu as à être tout le temps à aller pointer au commissariat, être suivi comme je sais pas comment. Est-ce que tu t'appelles ça une vie?
Mais non, c'est pas une vie. C'est bien sûr que c'est pas une vie.
Ouais, Vanessa, je termine en te disant un très grand merci pour tout ce que tu fais.
C'est gentil, merci beaucoup.
Voilà quoi.
Écoute, je suis très touchée.
Il y a des fois où tu sais, je me suis emporté un peu contre toi. Mais je reconnais toujours une personne honnête, une personne. Il y a très bons conseils.
C'est gentil.
Tu pousses toujours vers le bien. Et ça, c'est bravo.
Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, Karim. Merci de ta fidélité, en tout cas.
Merci.
Je t'embrasse fort, Karim. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir et bonne chance. Au revoir. 01 53 48 3000. Et ensemble jusqu'à minuit sur Beurre FM. Et vous êtes très frileux ce soir. Hein. Vous écoutez, mais pour rappeler, très honnêtement, le standard, il sonne pas bézef hein, ce soir. Je sais pas ce qui vous arrive. Hein. Quel dommage, hein, parce que le sujet, il est, ma foi, assez intéressant, parce qu'il touche bon nombre de personnes. Et qu'aujourd'hui, ça fait quand même la une de la presse, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télévision, que ce soit partout, hein, écrite. Voilà, donc cette forme de stigmatisation. Et ce soir, on est là pour avancer ensemble et aborder le sujet, mais d'une manière complètement différente et pas comme on nous l'impose. On ne le propose pas, hein, on nous l'impose. Voilà, on paye des redevances pour entendre... toujours les mêmes choses et à un moment donné ça devient 01 53 48 3000. On a Abdel qui nous appelle du 77. Bonsoir Abdel. Oh. Oui Abdel.
Bonsoir Vanessa.
Comment vas-tu? Ben écoute, je vais bien et toi Abdel?
Oui, ça va, très très bien. Ça va. Alors, c'est quoi le menu aujourd'hui?
Ben écoute, tu entends ce soir.
Oui, ça parle un petit peu des...
Bon, on parle de la prison ce soir.
Oui, de la prison, oui.
Ouais, on parle de la prison, de... Ben de voilà, enfin, on essaye d'apporter un peu de... c'est compliqué, hein, parce qu'on a abordé plusieurs oui. volets. Non, hein,
c'est vrai, c'est
parce
vrai.
Que c'est oui, un sujet qui est vaste. Hein.
J'ai arrivé... écoutez, Hakim, pas qui avait appelé...
Oui, on a eu oui. Hakim, oui, tout Hakim, à l'heure, voilà. qui en a très bien parlé, hein, Hakim, il a trouvé vraiment les bons mots, j'ai envie de dire.
Hein. Voilà. Après, moi, Vanessa, ce que je peux dire toujours, il faut, c'est l'éducation des parents, premièrement.
Mm-hmm.
Voilà, l'éducation des parents, et il faut mettre vos enfants au sport.
Oui.
Surtout le sport. Pourquoi je te dis ça, Vanessa?
Oui.
Parce que moi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de sport. Et j'avais même pas le temps d'aller sortir ou de profiter d'aller jouer avec des copains et tout. Je sortais les week-ends, mais dans la semaine, j'étais toujours occupé à faire du sport.
Oui, tu faisais du sport. Oui, c'est vrai voilà. que ça occupe.
Ça occupe.
C'est bon pour la tête, occupe. C'est bon pour. Oui, c'est
oui,
pas
oui.
faux.
Voilà, natation.
Quand c'est vrai.
Petit, je faisais voilà, natation, plus le vélo.
Oui.
Après, plus tard, à l'âge de 16, 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à faire de la musculation et la natation, et aussi je courais aussi, et le vélo.
C'est bien. Mais il n'y a voilà. pas que. Moi, j'ai envie de dire, c'est très bien, hein, bravo, hein, c'est bien.
Pourquoi je dis ça, Vanessa?
Ça défoule, oui.
Ça défoule.
Oui, oui.
Et après, là, le sport, Vanessa, là, moi, je cours. Je cours tous les week-ends, tous les samedis. Hier, je n'ai pas couru, mais, tous les dimanches. Je ne suis pas allé faire du sport. Là, je ne suis pas bien. Moralement, je ne suis pas bien.
Oui, un manque. C'est une bonne addiction, en tout cas.
Non, moi, je
mais moi, je dis les jeunes, tu sais, les enfants.
Le
sport, c'est très bien. Ce que tu dis, moi, j'adhère oui. complètement. Hein. Mais il y a aussi, par exemple, parce qu'il faut plusieurs activités, il faut aussi, parce que le cerveau, il a plusieurs parties, on va dire. Hein, plusieurs,
oui.
Il est demandeur quand on est petit, on est une éponge.
Voilà.
Donc, il faut, j'ai envie de dire, il ne faut pas le saturer avec juste une activité. Mais aussi des activités culturelles, autres, etc. Et puis
oui.
la musique. Très
la musique
important.
Aussi,
moi, je dis pas les choses comme ça. C'est pas anodin, hein, ce que je dis. Hein. C'est parce que c'est du vécu. Et j'ai vu les enfants qui ont réussi, qui aujourd'hui vraiment ont bien décollé. Eh bien, c'est pour ça que je donne ces exemples hein, et ces conseils. La oui. musique, c'est très important. Vous pouvez pas vous bien imaginer sûr. Des cours de musique à vos enfants. Par exemple, des cours de
c'est
piano.
Vrai.
Le solfège, ça apprend la patience, ça apprend la maîtrise de soi, la maîtrise de et aussi le comment on appelle ça, ça calme. Certes, oui, parce que souvent un enfant il est un peu agité et ça le canalise. Donc le fait d'apprendre le solfège, etc. Donc le piano, peu importe quel instrument, eh bien il y a des possibilités parce que ça peut être accessible à tous. Renseignez-vous, hein, il y a des voilà, dans les quartiers, il doit y avoir des conservatoires, etc., qui sont abordables ou même gratuits. Allez à la mairie, demandez. Alors, apprendre à un enfant à faire de la musique, vous ne pouvez même pas imaginer le bienfait que ça peut lui apporter.
C'est vrai.
Vraiment, une discipline parce que le solfège, ça apprend la discipline.
Oui.
Voilà. Il y a ça, le sport à côté, il y a, emmenez vos enfants au musée. Le musée, par exemple, le dimanche.
Vanessa.
Oui, le musée, vous apprenez, même avec lui. Parce qu'on ne sait pas
le
tout.
Le musée.
Eh oui.
Moi, j'ai emmené mon fils, je l'emmène toujours, on va sur Paris, on va dans les musées. Et
c'est bien, c'est bien. Bravo.
Et je l'emmène, quand je vais au sport, je l'emmène avec moi.
C'est super.
Je l'apprends à jouer au billard.
Ah oui, tu
le
vois.
Le billard, le baby-foot.
Magnifique.
Le jeu d'échecs.
Ah oui.
Voilà.
Ah et oui, ça, tu as comblé complètement. Tu vois. La nature a horreur du vide et tu l'as compris.
Moi,
il a quel âge ton fils? Il a quel âge?
12 ans. Il a 12 ans.
Eh ben écoute, magnifique. Voilà. Je peux pas
moi,
te dire mieux.
Dire
bravo.
Chose, Vanessa, quand on a un enfant, c'est 24 heures sur 24. Il faut le surveiller.
Ah oui.
Éducation.
C'est ça.
C'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ouais, c'est à temps complet. Je suis d'accord.
Voilà.
Je suis
moi,
d'accord.
Mes amis m'appellent, Abdel, si tu veux sortir, je dis non. Je disais les enfants. Désolé. Là, je m'occupe des enfants.
Punaise, bravo. Hein.
Non, je te dis, Vanessa, voilà, c'est parce que c'est une, responsabilité.
C'est ça, t'as tout dit.
Premièrement.
T'as tout dit.
Et après, faut pas dire, ah oui, mon enfant, il est comme ça, il a fréquenté, il a machin. Ouais, mais après, faut voir le...
Mais parfois, ouais.
Oui, parfois.
C'est vrai, non, mais ce que tu dis, oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi à 100%, là, parce que c'est vrai que les parents, il faut que vraiment.
Pourquoi je te dis ça, Vanessa? Moi, quand j'allais faire du sport, je voyais les jeunes du quartier, ils traînaient.
Et voilà.
Ils allaient en grande surface, ils achetaient, en vélo, ils allaient. Tu vois, Vanessa, ils restaient à côté de l'immeuble, en train de jouer, discuter. Mmh. Après, plus tard, voilà, après. C'est comme s'il y a un vide. Pour eux, ils n'ont rien à faire. Pour eux, ils disent, ouais, on s'ennuie, on n'a rien à faire. Pourtant, il y a plein de choses à faire, Vanessa.
Oui. Voilà. Ils se montent la tête les uns les autres et puis souvent il y a des mauvaises idées qui viennent parce qu'il y a toujours le chétan qui arrive à grands pas et qui leur dit voilà, il y a de l'argent à se faire, machin, etc. Et puis ça peut faire n'importe quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus.
Pourquoi moi, Vanessa, je viens d'une cité.
Oui.
C'est vraiment, il y a la drogue, il y a la station aussi. Voilà, je viens de 94. Choisis le roi, Orly.
Oui, oui.
Donc voilà, quand tu vois des jeunes, Vanessa.
Oui.
Moi, je vais aller travailler pour le SMIC et tu vois des jeunes avec des voitures de 40 000, 50 000 euros.
Et un problème.
Et un problème.
Ouais.
Je me souviens, dans une cité, il y avait un jeune, il avait, je pense, 22, 23 ans. Moi, je me levais le matin pour aller travailler.
Oui.
24 ans. Et lui, il était avec une voiture de. C'est une Porsche, hein, parce que c'est une voiture, c'est pas des voitures à.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Faut que ça soit clinquant.
Voilà. Il y a des jeunes, ils ont la... voilà, ils veulent avoir pareil.
Ouais, mais c'est ça. Attends, ne quitte pas. On va prendre Karim qui nous appelle du 91. Ne quitte pas. Peut-être qu'on va faire un débat avec lui. Ne pars pas, Abdel. Bonsoir, Karim.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Karim. Oui, très bien, Karim.
Enchanté, Vanessa. Content de t'avoir au téléphone. Mmh. C'est la première fois moi, que j'appelle.
Ah ben, écoute, bienvenue à toi, Karim. Tu es chez toi. Est-ce que tu peux couper le haut-parleur, Karim, s'il te plaît?
Oui.
Voilà, on s'entendra mieux. D'accord.
Là, vous m'entendez mieux?
Ah, là, je t'entends mieux. Oui, absolument.
Ça marche. Alors, c'est quoi le sujet, le titre?
Ce soir, on parle de la prison, des jeunes qui, malheureusement, virent du mauvais côté, quoi.
Oh, ben ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, oui.
Mais sinon, tu voulais parler d'autre chose, hein? Il n'y a pas de souci, Karim.
Non, il n'y a pas de souci, moi. Ce sujet, je suis ouvert à tout. Moi, j'ai juste une information à donner.
Alors, vas-y rapidement avant la fin, justement. Alors.
Oui, rapidement, c'est bon. J'entendais, on parlait un peu de la délinquance, le trafic de drogue, le parloir, etc. Mm-hmm. Malheureusement, tout ça, on a connu d'où je viens et...
Est-ce que tu as eu des problèmes, toi aussi, dans ce sens?
Oui.
Tu as connu la prison, tout ça?
J'ai fait de la prison. Mon frère a fait de la prison. Mes amis ont fait de la prison. On a fait du trafic. On a connu tout ça.
C'est terrible.
C'était une quinzaine d'années. Maintenant, comment dire, on s'est rangé. Maintenant, on travaille.
Ouais.
On a des enfants, etc. Et de toute façon, ça continuera toujours. Ça n'arrêtera pas parce que...
Oui.
Il faut savoir que le gouvernement a voulu ça. En
fait, oui, mais tu mets sur le compte du gouvernement. Non, il faut pas dire c'est la faute des autres. Il faut pas se dédouaner. Notre faute à nous.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, tu m'as pas compris.
Vas-y.
Tu m'as jugé, tu m'as...
Non, je t'ai pas jugé toi. J'ai dit nous en général. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, voilà.
Non, mais moi je suis pas comme ça du tout.
Ce que
je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs paramètres qui fait que il y a un trafic qui vient dans le quartier, que les gens ils tombent dedans, etc., etc. C'est ça que je voulais dire. On parle de les parents, ils ont mal.
Et comment c'est-il qu'il y en a qui tombent pas dedans? Tu vois?
Mais ils tombent pas dedans, mais ils vont tomber sur autre chose.
Ben non, il y en a qui s'en sortent. Tu vois, par exemple, on a Abdel. Abdel, tu es là, Abdel? Attends, on va prendre Abdel. Abdel, tu es là?
Oui.
Abdel, allô, qui vient d'un quartier. Oui. On a entendu tout à l'heure, pareil, Hakim. Abdel qui vient d'un quartier. Et qui, lui, il y avait ses copains qui étaient en bas. Et mais lui, non. Lui, ça l'intéressait pas. Il allait faire du sport. Ah, Abdel, c'est ce que...
Oui, effectivement. Moi, je te dis, c'est un quartier... Bah, c'est quartier, le quartier chaud. C'est Orly et Choisy-le-Roi, c'est connu. Hein.
Voilà. Et tu, toi, tu restais pas avec les ceux qui.
Non, 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 je t'ai dit, c'est l'éducation aussi. Voilà. Là, moi, je t'ai dit,
parce que parents... Karim, tu entends ce qu'il dit, Karim? Karim dit. Dis non, parce que, voilà, il y a des choses qui circulent, donc on est là. Non, non. Alors, vas-y, Karim. Non. Karim, vas-y.
Il y a des choses qui circulent, d'accord. Mais il y a les parents. Moi, je dis, c'est les parents. Faut surveiller vos enfants. C'est l'éducation. Même s'il y a des choses qui circulent.
C'est Karim qui parle, là?
Oui.
Non, eh ben, là... c'est Abdel. Non, non, c'est pas... Et Karim, alors, toi, qu'est-ce que tu penses de ce que dit Abdel?
En fait, c'est même si les parents, moi, j'ai connu des gens que, alors, les parents eux-mêmes, ils sont bien éduqués, ils ont bien éduqué leurs enfants. Mais finalement, ils finissent dans le trafic, dans des hauts trafics même, pas des petits dealers de cité. En fait, c'est pas une question d'éducation des parents.
Oui, ça peut arriver. Il y a des cas, d'accord. C'est ça pas peut arriver.
Voilà, on va pas remettre sur... En fait, il y a plusieurs paramètres et facteurs qui font que il y a certains trafics comme ça et tout ça.
Mais excuse-moi, Karim, excuse-moi.
Ils ont réussi.
Quand t'as 5, 6, 7 enfants aussi, c'est pas évident. Quand t'as 7 enfants ou 8 enfants, c'est pas évident aussi.
Quel dommage, on arrive à la fin, Karim. Tu arrives à la fin. Alors, moi, j'ai... Karim, c'est intéressant parce que tu as des choses à dire et que tu es un témoin qui peut être intéressant. Et avec Abdel, j'aimerais bien qu'on poursuive ce débat demain. Est-ce que vous pouvez me promettre de venir demain à 22h? Vous appelez demain à 22h, les garçons?
Il n'y a pas de problème. Oui. Y a pas de problème.
Super, Karim et Abdel, hein, je vous attends 22h. Comme, parce que 2 heures ne suffisent pas, hein, pour un sujet aussi important et sérieux. D'accord? Voilà. Et puis moi, ce que je retiens de tout ça, quartier, ok, tout ça, mais je pense que le fait que ce soit des ghettos quelque part, donc ils se retrouvent tous au même endroit, c'est, le problème, il est peut-être là aussi. Est-ce qu'il faut, il faut pas casser ces ghettos, quoi, ces, voilà, ces zones de non-droit? Penser les quartiers autrement, faire vraiment une mixité sociale. Il y a quelque chose, il y a du boulot. On aimerait que les politiciens dans cette campagne nous parlent de ce sujet au lieu de nous dire construire des prisons. Non, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas les prisons qu'il faut construire. C'est peut-être des logements et déconstruire justement pour pouvoir arriver à quelque chose où tout le monde peut vivre sereinement. Voilà, retirer tous ces jeunes de ces ghettos. Et faire une mixité sociale, tout simplement. Voilà, et multiculturelle, comme on l'entend, hein, pas que dans les phrases. Merci Giovanni, dommage, hein, parce qu'on avait aussi d'autres appels. On a 2 Zara, de Romorantin et de Paris. Karim et Abdel reviendront demain. Merci Giovanni, on se dit à
merci
demain.
Merci à toi, on se dit à demain, belle nuit.
Merci, moi je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h d'ici quelques heures. À 11h du matin, bien sûr, de 11h à midi pour vos petites annonces, chers amis. Et puis bien sûr à 22h pour Confidence. Et pour l'heure, pour maintenant, ben écoutez, continuez à écouter Beurre FM. Hein. Vous allez, vous avez. Alors qu'est-ce qu'on a ce soir? On a du Philippe Robichon.
Exactement.
Voilà. En entrée.
Et rediffusion d'AVS.
AVS avec ses invités, toujours intéressant. Hein, d'accord. Moi, j'écoute de ma voiture. Voilà, bonne écoute et belle et douce nuit. Rendez-vous demain. Je vous aime. Bye.
Trouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.